Vous écoutez
RMC.
RMC.
Cette saison qui va pas se terminer en queue de boudin.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion et que forcément vous êtes en retard.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible, elle a séché, c'est terminé.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
20h02, vous êtes sur RMC, c'est Génération After, on est là jusqu'à 22h, enfin, on est là jusqu'à minuit comme chaque soir bien entendu. Avec nous ce soir, Simon Dutin, salut Simon.
Salut Nico, salut tout le monde.
Je te voyais pas toi.
Pardon ?
Ça faisait longtemps que je te voyais pas.
Bah oui, on se voit plus souvent les mecs.
Ouais, mais on se croise.
Toujours un là. Plaisir.
On n'a pas les mêmes horaires, bien sûr, c'est toujours un plaisir.
Enchanté, ravi d'être avec vous.
Et bah pareil. Il est de retour, Romain Canouti, ça y est.
Ça faisait longtemps.
T'es tombé amoureux de Paris toi je crois.
Non, mais j'aime beaucoup Paris. Titi. C'est une super ville, c'est extraordinaire.
Le temps, tout ça, t'es gâté en plus quand tu viens toi en ce moment.
Non, ça, vous me la faites à chaque fois, le coup du. Bah, c'est vraiment pas de chance, tu viens quand il pleut, il pleut tout le temps, les gars.
Non, il pleut pas. Cours. Franchement, il pleut pas tout le temps. Je me souviens un jour, il a pas plu. Oussem Loussaïef également est avec nous. Salut Oussem.
Salut Nico Villas. Je suis perturbé, je pensais voir Nico Jamin. Mais finalement, c'est toi. Mais
bien sûr qu'il est là, Nico.
Ah,
tête,
il est là. Ah.
Toujours là, les gars. Salut, messieurs.
Bien sûr qu'il est là.
Ça va, le Jam.
Qui sera à partir de 22h.
J'ai la chance des mecs qui sont Nico Villas et Nico Jamin.
Qui font Gilbert Dubois.
Je fais un trek.
Tu sais où il est parti ou pas? Tu sais où il est parti?
Secret. Sûrement faire un trek.
C'est vrai qu'il ne le dit pas toujours.
Il dit très rarement, il faut lui demander.
Non, il le dit au retour. Après, au retour, il te raconte toutes les adresses.
Ah, ouais, bon. À toi, peut-être, ouais.
Ah ouais d'accord.
Oh. Je deviens fou avec l'imitation. D'accord, donc tu pars en vacances, tu dis pas où, d'accord.
Pensez pour Walid, hein, qu'il a pris aujourd'hui triple facture.
Ah oui, il a pris aujourd'hui, blessé. Ouais, voilà, effectivement. Comment c'est les infos du jour. On commence par ça d'ailleurs. Voilà, appelé au 32-16, hein, triple fracture.
Qui, Walid?
Ouais.
Pour de vrai?
Non, sérieux, c'est, il est tombé en scooter. Et c'est
mais non.
Ouais, c'est vrai.
Ah purée.
L'histoire, c'est un mec l'a reconnu dans la rue. Il a
c'est
vrai,
c'est... Ah ouais d'accord, tu m'as reconnu, d'accord. Ah ouais.
Et là il s'est mis piste cyclable.
Non,
et...
tu rigoles.
Non, je te jure que c'est vrai, il est tombé, bim.
Ah. Purée, truc de fou, je savais pas.
Non,
je lui envoie un message.
Il est en béquille et tout, tu l'as pas vu? Bah si, il était là hier. À ta place.
Je lui envoie un message.
Bien sûr. Je donne le programme de ces deux premières heures. On est à J-4 avant le retour des Bleus et le France-Pays-Bas qui sera vendredi. Qui doit jouer en pointe? Colomouani ou Giroud? Venez nous le dire au 32-16. On a ensuite un avis tranché d'Oussem qui est en PLS parce que.
J'ai pris une peine de prison.
Vas-y, 4 ans apparemment.
4 ans, mais c'est le contrat de Didier Deschamps.
Voilà. Et toi, on en prend pour 4 ans ferme.
Oui, j'ai quitté une tribune de Lousaille avec mon ami Nico Jamin. On a regardé une finale de Coupe du Monde, les émotions et tout. Bam, la semaine de la rentrée.
En 2 jours, t'as déchanté.
Ah, j'ai plus envie de parler de l'équipe de France.
C'est aussi grâce à Deschamps, la finale, les émotions. Non,
en penses-tu, Nicolas? Oui.
Si,
c'est pour rien, les sélectionneurs.
Ils sont déjà cool, les mecs.
Non, mais c'est cool parce qu'il était là. Il nous donne l'occasion de refaire ce débat 2 mois après, que ce soit
en plein
débat. On va se goinfrer.
En plus, moi, j'ai pas envie de parler de jeu. À la base, c'était parler des conférences de presse, etc. Mais après, si tu veux défendre ton entraîneur de l'équipe nationale, avec plaisir.
Eh ben, 32-16, choisissez-moi. Vous aussi. Avis tranché de Romain Canouti, qui sera Romain?
Qui sera sur les coachs, qui sera sur les. C'est pas vraiment un avis tranché, mais c'est
d'accord.
C'est bon, visuel dans la situation. En fait, ça sera tranché sur une personne en particulier.
Et voilà,
je suis sur l'entraîneur du PSG. Voilà, comme par hasard. Allez,
prévisible.
Venez insulter Romain
originaire de.
De la France, bien sûr.
Prévisible.
C'est ça. Super argument. Et puis, avis tranché de Simon Dutin, on parlera de Ligue 1 également. Dis-nous, c'est quoi ton avis?
Oui, parce que figure-toi, vendredi dernier, j'avais rien d'autre à faire. J'avais rangé mes chaussettes. J'ai regardé Lyon-Nantes, figure-toi, en ouverture de la 28e journée. Et en première période, alors bon, ça n'a pas donné les fruits escomptés, mais j'ai enfin aperçu la patte de Laurent Blanc dans le jeu de l'Olympique Lyonnais.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première période?
Ils étaient en 4-3-3 et Cherki était sur le banc.
Bah, le match d'avant aussi, ils étaient en 4-3-3 et Cherki était là.
Oh, papa, ils sont déjà
tranquille, hein, si tu veux parler de Cherki parce qu'elle a loupé un match, vas-y.
Sachez qu'également, sur les coups de 21h30, 21h40, on sera avec Paulo Breitner, retraite de Mesut Özil. Il a annoncé qu'il a arrêté sa carrière aujourd'hui. On va se refaire l'histoire de Mesut Özil, alors qu'il y a une relation très complexe, hein, avec ce soit la Mannschaft, l'Allemagne, etc. Il y a toute une dimension sociopolitique extraordinaire.
Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est pas la mort du poste de numéro 10 avec la fin de carrière d'Ozil?
Effectivement.
Est-ce qu'il y en a encore?
On n'avait pas prévu de parler de jeu, t'as remarqué, hein, mais on peut en parler. Non, c'est bien sûr qu'on va en parler. Et à partir de 22h, Nico Jamin, qui sera accompagné de
Daniel Riolo et Thibault Leplat.
Ah!
Deux anciens.
J'avais l'enthousiasme.
Bien avec vous.
L'enthousiasme.
Putain. Et là, mon émission.
C'est pas de génération ce que tu nous as annoncé là.
Daniel et Thibaut ce soir, comme hier soir, jusqu'à minuit, bien sûr. Alors, gros dossier que tu vas pouvoir écouter attentivement, mon cher Romain, en coulisses, hein, parce que t'es pas invité dans l'after, demain 10h à minuit. Sur l'Olympique de Marseille. Deuxième, c'est bien, saison dernière. Actuellement encore à 10 journées de la fin. Mais pourquoi faire après? Quelle est l'ambition marseillaise à moyen terme, à long terme? Quelle est l'étape staff numéro 2 du projet Longoria Macourt.
C'est pas mal.
On va se poser la question.
Ils ont des vrais
financières et sportives également. 11 ans sans titre. Hein. Est-ce qu'on va actionner d'autres leviers pour les mois prochains, les années prochaines? On va en débattre pendant quasiment une
pas,
heure.
Vous n'allez pas faire un truc sur le rachat de l'OM quand même?
Non,
c'est pas de l'info.
Non, là, c'est la politique. Là, on est sur la politique sportive. Alors,
Flo Germain sera avec nous également. On évoquera également. Tiens, un débat que vous n'allez pas faire, mais qu'on va faire nous. Giroud ou Colomoini, numéro 1 sur l'équipe de France.
Mais vous allez le faire.
Ou un autre. La variante.
Vous allez le faire en bien.
En vieux.
En bien.
En mieux. En mieux.
En vieux.
Ouais, mon gars.
Mais nous, on aura Polo et Johan Crochet pour nous éclairer sur ces deux hommes-là, bien sûr.
Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ah,
sur le Milanais et le joueur de l'Eintracht Francfort également. Et puis, ce sujet également, tiré de la revue de l'After. Écrit article écrit par Thibault Leplat, le football, cet obscur objet du désir. On se dira, voilà, moi non plus. On le fera tout à l'heure à partir de 23h.
C'est très,
très intéressant. Oui, nous avons tous du désir pour les footballeurs.
C'est vrai.
Pas forcément physique, évidemment.
Oui, oui, bien sûr.
Et on aimerait tous ici être footballeurs.
Mais, Simon, il a même du désir pour Didier Deschamps. Pour te dire à quel point, tu vois.
Qui n'a pas rêvé, les gars? Autour de la table, qui n'a pas rêvé d'être footballeur, gamin?
Moi,
Nico.
Moi, j'ai rêvé de
Simon.
J'ai vite été confronté au principe de rêver.
Oui, mais c'était rêvé.
Mais c'était ton
j'en ai rêvé.
Romain,
moi petit, je voulais être agent de joueur.
Le poton tout de suite.
Quelle tristesse.
Le blé, voilà.
Mais dis pas ça, tu collectionnais pas les paniers pour être agent de joueur.
Si, il avait un poster de Bernard. J'aimais beaucoup et j'avais toujours cette phrase, c'est il t'en faudra du chemin pour être comme Pape Diouf. C'était il y avait un peu la classe quoi déjà.
C'est vrai, c'était plus qu'un agent.
Donc c'est déjà la fin du talk numéro 1. Hein. Cette émission n'est pas tenue.
Mais c'est comme ça.
quand c'est Nico en général.
Quand c'est Jimmy Brown en régie surtout. Pas sympa pour Kylian, bravo.
Ça balance
Nico. Merci Nico, à tout à l'heure à partir de 22h. Tiens, vous savez qu'il y a également les quarts de finale aller de la Ligue des Champions féminines. Lyon est mené face à Chelsea 1-0 à 21h. L'autre club français engagé en quarts de finale de cette Ligue des Champions, le PSG face à Wolfsburg. On suivra ça avec Anthony Reich. C'est parti pour Génération After. Vendredi 20h45, premier match de qualif pour l'Euro 2024, donc ce fameux France-Pays-Bas qui sera à vivre sur RMC, bien entendu. Tiens, avant de lancer le débat Colomoini-Giroud en attaque, tiens, vous voulez qui vous en pointe, Colomoini ou Giroud? On vous attend au 32-16 ou quelqu'un d'autre, comme le disait Nico d'ailleurs il y a quelques instants. En conf de presse ce mercredi, il y avait les petits nouveaux, il y avait Jean-Claire Todibo, il y avait Brice Samba.
Un vent de fraîcheur.
Ouais. Il y avait les frères Thuram, alors il y avait Marcus qui était déjà là et Kefren qui était là. Et il y a eu des moments sympas, mignons, entre les deux frangins. Petite prod toute mignonne de notre tout mignon Kylian Vérov, écoutez-le.
Tout d'abord, j'ai appris sa sélection en même temps que lui. C'était une très grande fierté. Je pense que j'ai même été plus content que lors de ma première sélection.
Ça a toujours été un rêve de venir avec mon frère Clairefontaine, ou ça a toujours été un rêve de jouer avec lui, que ce soit dans le jardin ou que ce soit au plus haut niveau. Et aujourd'hui, ça se réalise. Donc franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Moi, pour ma part, je l'avais imaginé. Lui manque d'imagination, je pense. Mais moi, depuis plus petit, j'avais toujours imaginé jouer en équipe de France avec mon petit frère. Il n'y a pas de concurrence entre nous et notre père, ou moi et Kefren. Enfin, peut-être que lui, il a une petite concurrence avec moi, vu que c'est le plus petit. Mais ce qui est normal, qu'il fait tout pour rattraper son grand frère. Mais ça reste toujours dans l'amour et dans la bonne humeur. C'est vrai qu'on se charrie de temps en temps quand il marque ou quand je marque pas. Ce qui arrive très rarement, puisque c'est plutôt moi qui marque. mais ça reste bon enfant, et c'est mon petit frère, et tout ce qu'il fait, je le vois avec des grands yeux d'amour.
Tout comme Marcus.
C'est mignon comme
c'est
tout,
excellent.
Non? On voulait commencer avec une note d'amour.
Mais c'est excellent.
Mais vous avez vu, enfin, ceux qui sont sur Twitch l'ont vu. Mais
on est sur la chaîne RMC Sport de
Twitch,
je viens de le rappeler.
Je te fais dépasser comme ça. Je sais qu'à la présentation, là, ça donne un backup, on est là. Oussem. Pendant cette séquence, c'est un truc à se mettre en replay. Il était, mais attendri, on avait l'impression.
Je te jure, j'ai kiffé. Non, mais c'est de la fraîcheur, et ça revient avec ce dont je voulais parler tout à l'heure, et le manque de fraîcheur de notre ami, qui est l'ami de Simon Dutin. Mais oui, c'est beau, c'est frais, c'est efficace, il n'y a pas de langue de bois, c'est naturel.
Oui, enfin, il n'y a pas de langue de bois, c'est pas non plus incroyable.
Non, parce qu'après, moi, je suis journaliste, j'ai écouté le reste des questions, et on leur a posé une question sur le PSG et la cible prioritaire que.
Il y a eu un petit blanc.
Qui a été donnée et émise par un journaliste. Alors, ils ont rigolé, tu vois, ils assument le fait que c'est gênant et qu'ils veulent pas en parler, et que s'ils devaient jouer ensemble dans un même club, ils le feront, et il y a pas de. Par contre, c'est pas un objectif, et j'ai trouvé ça vraiment d'une fraîcheur incroyable. Je me suis posé la question, je sais pas si vous avez la réponse, est-ce que les frères Hernandez ont fait la conf ensemble?
Non, je crois pas.
Je crois pas non plus. En tout cas, j'ai pas le souvenir,
Mais c'était une bonne idée.
On a quand même effectivement le droit de dire que c'est mignon, se tape tellement rien. Deux mecs qui sont désagréables, qui ont pas envie d'être là. Là, tu te mets à la place de Marcus, pour ceux qui ont, Je sais pas, un petit frère, c'est déjà fou d'être en équipe de France. T'imagines, Marcus, il voit son petit ref qui est là.
Mais t'imagines surtout le
la fierté,
le daron, le papa.
Ouais,
la vidéo qui a été faite.
C'est exceptionnel. Ouais, bravo. C'est franchement, bravo. Et en plus, je sais pas si vous avez.
Secondes, on se les est tous passés en boucle.
Ah, si les frères Hernandez l'avaient fait, me précise.
Bah, tu vois, c'est une très bonne idée. Et je sais pas si vous avez écouté tout à l'heure, Damien. Didier Digard chez Jérôme, mais il parle de Kefren Thuram, mais il parle d'un bosseur, d'un mec méritant. Et quand tu vois le discours de son grand frère aussi à l'égard du petit frère, tu dis mais c'est, on veut les voir ces mecs-là. Allez-y, donnez-leur la parole, donnez-leur du temps de jeu. On veut tout voir.
Après, juste sur un petit éclairage médiatique.
Vas-y, fais le pisse-froid. Vas-y.
Il faut comprendre aussi que
toujours,
les journalistes qui sont à Clairefontaine à ce moment-là dans la salle de presse, ils ont pas le petit mot. L'image, elle est déjà faite. Quoi qu'ils disent, de toute façon, tu en tireras quelque chose. Donc les mecs sont pas là à chercher la petite bête, à aller gratter un petit truc ou quoi.
Bon, ils ont tenté le truc, PSG.
Mais c'est pas grave. Du coup, t'es beaucoup plus détendu. Alors que quand un mec arrive et derrière il faut des papiers, des cidés là.
Tu veux dire qu'il y a plus de bienveillance aussi de la part des journalistes.
Mais bien sûr, ils avaient envie de leur faire. C'était des Oussem, ils avaient envie de leur faire guili guili. Et puis voilà,
c'était ça. On aime le foot.
Et puis les Hernandez, ils ont quand même pour le marquer le coup médiatique. Quand Théo a rejoint Lucas, effectivement, là, on est allé chercher la dernière fois que c'était arrivé les Révéli, machin. On est allé voir en Europe, on est allé comparer. Là, effectivement, vu que c'était moins un événement puisque c'était arrivé il y a quelques semaines, on était plus effectivement dans l'émotion et je trouve ça.
Et ça fait du bien.
Ça super, ouais.
Mais même les confs de Jean-Claire Todibo et de Brice Samba, c'était agréable à écouter. C'était sympa, il y avait de l'info, il y avait de l'humeur et c'est ce qu'on veut en tout cas d'une conférence de presse.
Après, le risque, c'est que là, t'as balancé toute la fraîcheur d'un coup, c'est-à-dire tous les petits nouveaux et derrière, tu vas taper les vieux.
Oui, mais t'es obligé de faire les présentations, t'es obligé d'envoyer les nouveaux, quoi. C'est, la presse attend ça. Si ça avait été Wesley Fofana, mais il était off, il était forfait, ça aurait été lui aussi, tu vois. Donc, tu auras envie d'écouter un peu de fraîcheur, c'est normal.
Alors, chers auditeurs, auditrices de Génération After, on vous attend au 32-16. On va poser les jalons du débat, on va revenir dans un instant. Qui voulez-vous en pointe face aux Pays-Bas? Vous voulez Giroud, vous voulez Colomouani, 32-16? Tiens, on va lancer le sondage sur la chaîne Twitch RMC Sport. Sacha va nous balancer ça. Il va nous balancer la réponse également. Nous, on vous attend au 32-16. Ou si vous voulez quelqu'un d'autre, alors, ou peut-être les deux même.
Marcus Thuram aussi qui peut se.
Ou peut-être les deux d'ailleurs, Giroud et Colomouani, pourquoi pas. On écoutera Didier Deschamps qui était hier en conférence de presse, qui s'exprimait et sur le statut de Giroud et sur les arguments à faire valoir par Colomouani. A tout de suite avec Oussem Loussaïef, Romain Canouti et Simon Dutin au 32-16.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
En compagnie de Simon Dutin, avec Oussem Loussaïef, avec Romain Canouti, avec vous au 32-16. On est en direct également sur la chaîne Twitch RMC Sport. Il y a Sacha qui a balancé le sondage. La question, on vous la pose au 32-16 pour le match de vendredi, le premier match des Bleus depuis la finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Vous voulez qui en pointe, Colomouani ou Giroud? Ou si vous avez une autre suggestion, on vous attend là aussi pour la donner au 32-16. Tiens, si je vous pose la question comme ça, vous dites quoi, Simon?
Juste avant, Nico, parce que on a une présentation, ce sujet va aussi être traité dans l'after. Désolé de lui mettre une balle alors qu'il est parti, mais Nico Jamin, c'est magnifique, nous a quand même présenté ça en nous disant non mais on va avoir un éclairage avec Johan Crochet et
Paul
Breitner pour parler de Giroud et Colomouani. Ouais, j'avais l'impression en face de moi d'avoir Christian Jean-Pierre, tu sais, quand t'avais un mec qui rentre en équipe de France qui dit
c'est qu'il va te, alors lui, vous allez voir saison au quotidien, c'est ça qu'il veut dire.
Tu sais, quand il y a un mec qui rentre et que le mec il a juste 4 ans de Ligue 1 à lui, qui dit alors lui attention, il est très très fort.
Mais tu vas pas me dire que tu regardes tous les matchs de Giroud et que tu tapes tous les matchs de Colomouani.
Non.
Bon bah Crochet et Breitner, ils le font.
Oui, mais on s'est compris.
Non,
on
mais Thuram, expliquez avec
lui. On connaît le profil.
Et pour Colomouani, moi, tu m'en aurais parlé il y a un an, il aurait fallu être persuasif quand même pour.
Tu croyais pas du tout, toi,
qu'il allait atteindre ce niveau-là. Ouais. Bon, ça, c'est sûr.
Ouais. Ouais, mais ça, même lui-même. Hein, mais.
Et pourtant, les gars, souvenez-vous, avant la Coupe du Monde, Olivier Giroud, on connaissait pas trop son statut, remplaçant par remplaçant. On va écouter Didier Deschamps qui était hier en conf de presse, qui s'exprimait sur les interrogations qui pouvaient exister quant au statut de remplaçant justement d'Olivier Giroud.
La question, l'interrogation avait été levée de ma part, le fait que je le sélectionne après qu'il a été numéro un à la Coupe du Monde par rapport aux différents événements qui a pu se placer, les blessures de joueurs, ça l'a mené, mais s'il avait pas eu ce rôle-là, je l'avais prévu déjà dans le groupe, donc il est là comme les 23, évidemment il y en aura 11, et je sais que ça vous intéresse plus que tout de savoir les 11 qui débuteront, mais il y en aura 11 trois jours après, les 23 sont susceptibles de pouvoir débuter.
Ah, je vais me foutre en l'air.
Réveille-toi,
arrête, c'est bon, mais t'as appris quoi là du son?
Mais, bah, si, il t'explique qu'en gros, il y avait une interrogation avant la Coupe du Monde et oui. Voilà, tu l'écoutes même plus, au fait.
Il nous apprend quoi? Qu'il y avait Benzema titulaire, à la base. Oh, ok, merci, on savait pas. Qu'il est dans le groupe et qu'il va avoir un 11 titulaire, vendredi,
et
un 11
sont susceptibles de jouer.
Ouais. Purée. Ouais. Tout ça, 37 secondes pour ça.
Ah. Oussem, avant qu'on s'embrouille, non, mais tu sais quoi, toute la conf de Deschamps, c'est un désastre. Je suis tout à fait d'accord.
C'est mon avis. J'ai fait l'interview de Tout le Sport chez nos confrères de Tout le Sport. J'ai fait la presse quotidienne régionale.
Il a fini en réa.
Oh, je te jure, j'ai failli mourir.
Mais je partage, je suis premier degré. Hein. Je suis sincère, je partage ton avis. On n'apprend rien.
Je ne parle pas du technicien. Je n'ai pas la qualité pour critiquer un technicien qui a
raconté juste un truc sur Didier Deschamps, parce que, bah, du coup, je l'ai pratiqué en conférence de presse de manière à l'année, du coup, puisque c'est un
à Marseille.
De Marseille. Et c'était même pire. Il avait un petit jeu, on était 2-3 à le savoir, enfin, dans la salle, mais en fait, il y a un pupitre, un immense pupitre en bois. Et des fois, il y avait certaines questions, et il a regardé un de nous, et il tapait comme ça avec son poing sur le bois pour dire: vous voulez de la langue de bois, vous allez en avoir. Et il sortait des trucs.
C'était son truc. C'est bon, ça.
On savait que quand il avait ce truc-là, on savait très bien qu'il allait répondre un truc du genre: ouais, on peut gagner, on peut perdre, ou alors on peut faire match nul. Enfin voilà, on savait qu'on allait.
Cela dit, Oussem, j'ai envie de te faire kiffer encore.
Arrête.
J'ai envie que t'écoutes Didier Deschamps sur Kolo Muani, qui a aussi des arguments à faire valoir, bien sûr.
Certainement sur le plan de la confiance, même s'il en avait beaucoup en lui déjà avant la Coupe du Monde. Il a continué sa progression pour confirmer avec son club. Donc, c'est pas mettre une étiquette de titulaire indiscutable, mais évidemment, il a encore, c'est factuel, plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui qu'il n'avait avant la Coupe du Monde.
Ouais, ça envoie.
Désastre.
Ça envoie. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'est vrai.
Oh, merci.
Voilà, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il a plus d'arguments à faire. Voilà. Tu mets qui, toi, face aux Pays-Bas?
J'ai une préférence pour Kolo Muani.
Pourquoi?
Parce que j'aime le profil du joueur. J'aime que ce soit un joueur capable de prendre la profondeur, de venir dans les pieds, de garder le ballon dos au but. Quelqu'un capable de combiner dans des petits espaces. Quelqu'un capable de varier son jeu, de prendre des responsabilités de plus loin, en dehors de la surface. J'aime les courses qu'il fait. J'aime le joueur. Alors, ça enlève en rien qu'Olivier Giroud est un joueur exceptionnel, mais je préfère. Et puis, comme on est dans une ambiance où il faut installer une nouvelle génération, je me dis pourquoi pas le faire maintenant.
Romain, il veut quoi, Kylian?
Ça va finir peut-être comme ça.
Et bon, le Romain.
Voilà. Peut-être. Vous me dites, hein. Et après,
je pense qu'il préfère Kolo Muani, hein, depuis quelques temps déjà, d'ailleurs.
Ah, on sait pas.
Je pense que qui que ce soit.
Franchement, voilà. Il y avait une bonne entente aussi, Giroud, Mbappé, pendant le mondial.
Rappelez-vous cette communication très rapide de Giroud avant, en disant,
C'est fini, ça?
Regarde la Coupe du Monde, c'était pas mal, quand même, ce qu'ils faisaient ensemble.
Mais ce qui est bien, c'est que le dernier match de l'équipe de France, Giroud le démarre, et c'est peut-être son plus mauvais match du mondial.
Ouais.
Et il est remplacé par Kolo Muani, qui fait peut-être sa meilleure prestation, enfin, même sûrement. Donc du coup, tu as peut-être le passage, et c'est intéressant de voir le match d'après. Moi, faisons abstraction du contexte. Disons-nous juste, c'était le dernier match. Du coup, tendance Kolo Muani, du coup, vu que c'est lui qui l'a fini.
Simon.
Il faut répondre à l'instant T, donc je vais dire Kolo Muani. Mais j'ai affronté des joutes là, face à des adversaires dans ce studio. Je suis sorti en sang. On s'est fouetté au barbelé. On a fini. Il y a des mecs qui adorent ça ici. Mais non, mais vraiment, on a eu des débats, mais d'une violence extrême.
Ah oui, les vidéos au Place de la République ou à Bastille, c'est rien.
Je veux dire, on a eu des débats, on s'est hurlé dessus, et moi j'ai défendu un mec, Giroud, que j'aimais pas à la base, mais qui m'a fait poser un genou à terre avec la carrière qu'il a faite, si tu veux, qu'il a
accompli
en équipe de France.
On néglige pas.
Mais là, à l'instant T et avec les dynamiques opposées, Giroud, effectivement, il est encore là. Je pense que c'est pour faire le papa, pour équilibrer. Il y a eu des départs importants dans le groupe.
Oui.
Et effectivement, quand tu reprends le discours de Deschamps qui disait, moi, j'ai vissé avec lui qu'il serait pas forcément titulaire et il est OK avec ça. Si c'est pour te dire, il est indiscutable, t'as vu, il a mis 4 buts en Coupe du Monde, ça j'achète plus, parce que effectivement, j'entendais, c'est Jérôme qui a dit, si tu te prépares à l'Euro, qui est dans 2 ans, il aura 38 ans à l'Euro, tu pars pas comme ça.
Là, la question,
c'est un mauvais signal que t'envoies aux autres.
La question, c'était pour le match. Parce que l'Euro, le débat.
C'est quand même révélateur, c'est une nouvelle époque. Le 11 qui va mettre, blessé, excepté.
L'important, c'est d'être révélateur quand même.
Il va être révélateur, rien du tout. Non. Là, pour la prochaine compétition, dans l'équation, t'auras du Matistel, c'est quasi sûr. T'auras peut-être du Eli Wahi.
Oh, là, c'est de la projection trop lointaine, les gars.
Mais oui, non, mais c'est comme ça que ça se passe, le football.
Oui, mais non, tu peux pas aujourd'hui dire à l'Euro, il y aura tel joueur.
Oussem, je viens de te voir en septembre 2016.
Oui, mais
je viens de te voir et je te dis, Kylian Mbappé, il va marquer en finale de Coupe du Monde. Tu mets quoi comme type de balayette? Non, on ne sait pas. On n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire oui, que voilà. Là, tu peux te projeter pour ce match-là et te dire Giroud, Colomoigny. Mais le débat avançant en 2024, il est très loin et exactement. Ça ne va pas du tout se décider là. Par contre, tiens, j'en profite, Nico. Excuse-moi, tu vas dire, il fait des placements produits. On ne parle pas de Radignan, c'est promis. Mais juste, je pense à un truc parce que je sais que tiens, Raphaël Raymond nous écoute, attaché de presse de l'équipe de France.
Ah, on l'embrasse, hein, bien sûr.
On l'embrasse. Évidemment, il y a peut-être un coup à faire parce qu'il y avait, il y a peut-être plus attendrissant que les frères Thuram peut-être à faire. Il y a peut-être Olivier Giroud du coup avec son frère Romain Giroud que vous avez vu dans le média. Voilà, la version zadiste et tout. Enfin, on mettrait les deux. Ça serait exceptionnel.
Méchant, il a l'air sympa.
J'aurais dit la version christique parce que c'est vraiment le cas.
Christique, ouais. c'est bien.
Giroud, il fait
kiffer. Il a l'air situé.
Tellement sympa son frère.
Quand je dis zadiste, on voit de suite le.
Je vous donne pour l'instant l'avancée du sondage sur la chaîne Twitch RMC Sport. Pour l'instant, qui titulaire face aux Pays-Bas, Giroud, Colomoigny, Giroud 37%, Colomoigny 63%. Donc pour l'instant, c'est un petit plébiscite franchement en faveur de Colomoigny. On va accueillir Francis qui nous a appelé au 32-16. Salut Francis.
Oui, allô.
Ça va, salut Francis, qui nous appelle d'où?
Salut Francis. Ah, je vous appelle de Sartrouville.
Oh, la maison, ça.
À côté.
La maison, 78, toi.
Bien sûr,
en fait, franchement, depuis tout à l'heure, je vous écoute, c'est un bon débat, mais je pense qu'on se trompe dans tout ce qu'on est en train de voir. Parce
allez,
que,
dis-nous tout.
Ben, ceux qui décident, c'est Deschamps et Mbappé. Tout simplement.
Oui.
Donc,
mais t'as le droit de prendre, là, c'est ton ressenti à toi,
c'est
ton choix à toi.
Ouais, mais parce
c'est
que
ton ressenti.
Si je parle de mon ressenti footballistique, oui. Déjà, le ressenti footballistique, il m'a été retiré avec la Coupe du Monde 2018. Moi, personnellement, je voyais pas Giroud titulaire, mais il s'avère aujourd'hui que Mbappé n'est pas aussi fort quand il a un autre attaquant que Giroud. Même si j'aime pas footballistiquement Giroud, par affinité, moi, je suis plus attaquant véloce, rapide, Anelka, Henry, Colomoigny, Kingsley Coman. Moi, je voyais plus Coman. Mais aujourd'hui, c'est Giroud. C'est Giroud qui doit être avec Mbappé. Parce que Giroud rend Mbappé meilleur. Mbappé le sait.
Et tu penses Mbappé, que Colomoigny ne peut pas faire ce rôle-là?
Mbappé, Colomoigny, c'est pas un point de fixation. Colomoigny, il a juste.
Bah, tu regardes pas les matchs de France.
Si, je regarde les matchs de France. Mais en regardant les matchs, il a des caractéristiques qui ressemblent trop à celles d'Mbappé. Mbappé, il lui faut pas un attaquant qui lui ressemble. Il lui faut un attaquant qui soit différent de lui.
Oui, mais Francis, tu vois bien que des fois, Colomoigny, il a plus de facilité à se reaxer. Il prend beaucoup plus l'axe naturellement. On en riait sur le pivot gang, mais tu vois, Colomoigny, il n'aurait jamais émis une hypothèse pareille parce que lui, s'axer, il le faisait, que ce soit avec Nantes, que ce soit avec Francfort, il le fait, tu vois.
Là où je te rejoins, Francis,
là,
c'est que Colomoigny.
Mais là, ça va être la joute internationale. Et dans la joute internationale, Mbappé, tous ses buts, il les a mis dans l'axe. Il les a pas mis sur le côté. Il les a mis dans l'axe parce qu'il y avait un attaquant qui était point de fixation, qui lui faisait des remises. Ça lui permettait de marquer ces buts-là. Giroud, c'était parfait avec lui. L'association, ouais. L'association qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est parfaite. C'est pour ça que pour moi, Mbappé, quand même, il a raté deux étapes. Il aurait pu avoir deux grands attaquants à ses côtés. À Paris, on aurait pu avoir la meilleure attaque du PSG avec Mbappé-Cavani. Mbappé, il a dégagé Cavani. On aurait pu avoir Mbappé-Giroud. Mbappé, il préfère Colomoigny.
J'ai pas l'info sur ça, ce qu'il préfère lui. Mais en tout cas, il a des facilités à échanger avec lui aussi, tu vois.
Ouais, mais on le sait tous que c'est forcément lui qui préfère. À partir du moment où il est capitaine, c'est lui qui tient les clés du camion. Didier Deschamps, il peut dire ce qu'il veut.
Si toi, t'as l'info, j'ai pas l'info.
Ouais, c'est ça.
Alors vas-y, Simon, tu veux réagir. Attends, Francis. Attends, vas-y.
Non, moi, là où je rejoins Francis, c'est vrai que tu vois le Colomoigny, il fait quasiment un 90, il est un 87.
Ah ouais.
C'est une grande tige. Effectivement, le réflexe, c'est de se dire, bon, il fixe, il pèse sur les défenses. Moi, il y a un truc qui m'a fasciné lorsque je l'observais un peu avec Nantes l'an dernier, c'est qu'il porte beaucoup le ballon.
Ah oui.
C'est très difficile de lui prendre le ballon.
Cette année, si tu
et
vois.
Il provoque, j'ai vu passer une stat le week-end dernier en Bundesliga.
13 dribbles. Contre l'Union Berlin.
100% de réussite contre l'Union Berlin.
C'est la première fois depuis 2004.
Ils analysent la compétition.
C'est fou.
Et donc, il est aussi là où tu l'attends pas avec son physique et il est tellement atypique et titre tellement surprenant que je pense qu'avec les stats ça réussit, tu peux de toute façon pas se passer d'un mec comme ça. Mbappé, tu vas lui montrer les stats, Francis, tu vas bien lui dire écoute, un mec qui est dans la zone comme ça, on peut pas le laisser sur le banc. T'es bien d'accord, Mbappé, il était dans sa situation il y a pas longtemps, tu sais, à gratter du sabot, à s'impatienter, à vouloir jouer, à prouver qu'il a le niveau, quoi.
À sa date quand même, mais il y a en plus politiquement Colomoigny, il est pas maladroit, parce que là il a donné un entretien à l'équipe, il a fait la une du journal. Et dedans, il s'est glissé. Au moment où il reparle de son occasion manquée, la fameuse contre Emiliano Martinez, le face-à-face plus qu'une occasion manquée, il glisse bien. Ouais, ouais, j'aurais pu la donner à Kylian. Voilà.
Je vous relis la fameuse déclaration parce que c'est une forme de mea culpa finalement. Oui. Je peux la décaler en diagonale pour Kylian, la lober, la tirer à gauche. Avec la vidéo, je vois tellement d'options. J'ai envie de passer à autre chose, mais ça fait partie de mon métier. J'arrive à répondre. Ce n'est pas comme si j'étais triste. Je ne vais pas l'oublier, jamais. On était à deux doigts de ramener la troisième étoile. Je ne vais pas mentir. J'ai la haine. Mais c'est vrai que il y a cette fameuse phrase. Je peux la décaler en diagonale pour Kylian en mode. Excuse-moi, je t'ai oublié.
Oui, mais c'est facile de voir Kylian sur une vidéo.
Vit
ce moment-là,
il le dit, mais il n'y a pas quand même, tu vois.
C'est honnête,
c'est pas idiot de le dire.
C'est honnête, ouais,
c'est plus qu'honnête, c'est pas idiot.
Vas-y, Francis.
Si je peux me permettre sans vouloir vous couper, c'est pour ça que c'est justement la question qui est centrale. Que voudra Kylian Mbappé? Parce que lui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Olivier Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il veut cette place-là. Et il l'aura. Parce qu'il a 24 ans. Il est capitaine, il va dépasser le record de capitanat d'équipe de France parce qu'il aura le capitanat à 24 ans. Lui, il veut rafler tous les records.
Ouais.
Maintenant, il veut quoi à ses côtés? Il veut un attaquant qui sera peut-être capable de mettre autant de buts que lui ou un attaquant qui sera là pour jouer pour lui? La question, elle sera là. Ça veut dire que même Deschamps, c'est là où quelque part, même Deschamps, il s'est désavoué dans sa sélection. Déjà, il a fait une erreur. Parce que déjà, il les a donné les clés du camion à Mbappé en faisant la sélection qu'il a fait. Il les a donné les clés du camion. Moi, justement, j'ai été très attentif au capitanat. J'attendais de voir qui de Griezmann ou Mbappé allait être capitaine. Et le fait déjà de voir que Mbappé est capitaine, on a déjà la direction de l'Euro. On peut même se projeter déjà comment l'Euro se déroulera. Le capitaine, ce sera Mbappé. Donc, tous les ballons devront passer par lui. Ça veut dire que la
pas
lecture
forcément,
et la sensibilité...
Pas forcément, Francis.
Si.
Non, au PSG, pas forcément.
Et parce que c'est le problème. Si vous regardez le match entre Paris et Rennes, le football que le PSG pratique actuellement, c'est un football de... C'est un football de popularité. On donne la balle à celui qui est le plus populaire. Et le problème, c'est qu'actuellement, Mbappé fait déjouer le PSG des fois quelque part.
Moi, je ne dirais pas on donne le ballon à celui qui est le plus populaire. Je dirais on donne le ballon à celui qui est capable de faire une différence. C'est
non,
ça.
À Paris, on donne le ballon à celui qui est le plus populaire.
Mais non, ils n'ont pas des comptes Instagram sur le ballon de foot. Ils donnent le ballon, Francis.
Et si tu regardes bien les matchs et que tu dois donner le ballon à celui qui fait plus de différence, Neymar fait plus de différence qu'Mbappé.
Mais Neymar, quand il est sur le terrain, demande à Hakimi s'il voit beaucoup le ballon. C'est bien sûr qu'il donne naturellement à Messi, à Neymar et à Mbappé. Là où je peux te rejoindre un peu, c'est que si on parle du Paris Saint-Germain, bien sûr que la stratégie, elle est de, on donne au mec qui peut faire la différence, comme dans une cour de récréation. Mais c'est pas ça le débat. C'était sur l'équipe de France. Et je ne pense pas que Kylian réfléchisse comme ça et en se disant Colomani va me faire de l'ombre ou quoi que ce soit. Kylian est comme
Francis. Merci d'avoir été avec nous, Francis. Merci beaucoup, okay, Francis. À très vite.
Salut,
on vous attend au 32-16, hein. Vous voulez qui en attaque face au Pays Basque? Vous voulez Kolo Muani, Giroud? Vous avez une autre option, on vous attend avec Oussem Loussaïef, Simon Dutin, avec Romain Canouti. Et le sondage qui a été lancé sur la chaîne Touche MC Sport, mine de rien, ça s'est resserré. 56% pardon, je crois, en faveur de Kolo Muani.
Ah, c'est serré.
Ouais, et ça commence à se resserrer. Il y a Sacha qui gère ça. On vous attend bien entendu au 32-16 sur le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio, sur la chaîne Twitch, le chat de la chaîne Twitch d'RMC Sport. Nous, on revient dans un instant. Il y aura bientôt ton avis tranché également.
Je sens
qu'il va y avoir de la joue
tranchant. Non.
Je suis sûr qu'on est d'accord sur le.
S'il parle que des confs, ouais, effectivement, je vais
pas me permettre de critiquer le jeu de Deschamps.
Ok, mais j'avais
en plus, il est très alléchant.
Ça envoie. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
En compagnie de Romain Canouti, avec Simon Dutin, Oussem Loussaïef, avec vous sur la chaîne RMC Sport, Twitch également. Vous êtes assez nombreux un soir d'ailleurs, à réagir notamment au sondage qui avait été lancé. C'est le débat qu'on avait il y a quelques instants. Pour le match de vendredi, retour des Bleus, premier match de qualif pour l'Euro 2024, France-Pays-Bas. Vous voulez qui en pointe? Vous voulez Giroud? Vous voulez Kolo Muani? Bon, bah c'est Kolo Muani qui l'emporte, cela dit. Hein. Voilà, pour réagir au 32-16, hein, bien sûr.
C'est un débat qui se tient.
Ouais.
Franchement, c'est un débat, je pense, qui va nous tenir le temps des ce que disait Romain, le temps des qualifs au moins. Ça va être intéressant.
Et après, Mathis Tell arrivera. Non, je déconne, on ne sait pas.
Lui, c'est sûr, il a une carte rare de Mathis Tell.
Non, alors même pas. Je ne vois pas ce qui te permet de dire que je pourrais possiblement jouer à soir.
Par exemple, que tu portes ou...
Peut-être.
Ouais, c'est pour ou les discussions en région. Ou la discussion que tu as à la rédaction.
Ça s'affiche en bas de notre écran. Les candidats sur place ne le voient pas.
Alors, on a parlé terrain, jeu, là. Et avec Oussem, notre grand spécialiste de la communication, on a un avis tranché qui concerne la com' des Bleus, justement.
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
Celle-ci, 2007.
Le revers du bâton.
Il faut s'en méfier.
Attention, pour me.
Je recontextualise.
Même Max, on l'a entendu à l'autre bout de.
De toute façon, je ne supporte pas la Trubers. Je recontextualise. C'était une matinale. Il était 7h du matin.
Arrête.
J'étais explosé.
Avec Thibaut Jean Grande.
Exactement. Il m'avait fait une blague juste avant. Et bon, après, tac, tu perds le fil. Je suis désolé. En plus, mon épouse, elle est prof de français, la honte.
À peine deux jours depuis le début du rassemblement de l'équipe de France. Et toi, tu es déjà blasé.
C'est exactement ce que je disais.
Pour 4 ans ferme.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. J'étais là, les émotions, on a tout ce qu'il fait en tribune. J'avais tout oublié, mais j'étais un passionné, l'équipe de France. Et là, c'est la rentrée scolaire.
C'est le fait du jour, 4 ans ferme avec incarcération immédiate, ce que l'on appelle immédiate. Mandat de dépôt. C'est d'ailleurs ce qui avait été
retenu.
C'est exactement ça. Incarcération immédiate. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai regardé.
C'est juste pour l'histoire. Ça concernait Balkany. Hein.
Oui. avec les conseils de mon ami Nico Villas, on a trouvé quelqu'un qui a pris 4 ans ferme. C'était les Balkany. Et donc voilà. Je me suis frappé toutes les confs.
De Balkany?
Non.
Ah bon.
J'aurais bien aimé. Parce que je pense qu'il y avait 2-3 trucs à gratter. Mais j'ai la conf qui annonce le groupe, la première conf de la semaine lundi. J'ai regardé l'interview chez nos confrères de Tout le Sport. J'ai lu en presse écrite ce qu'il a donné en presse régionale. Et c'était peut-être la meilleure interview.
Il y a LOL saison 3 sinon, hein, tu sais, c'est pas ouf. Mais bon,
tu vois, je me suis dit, parce que franchement, moi, je veux pas faire du bashing, j'aime pas ça et tout.
T'es allé vérifier, quoi.
Non, et voilà, je me suis dit, peut-être qu'avec la nouvelle génération, on sait que c'est des jeunes joueurs qui poussent au changement, qui imposent de nouveaux codes. Je me suis dit peut-être que, allez, il se dit, c'est quoi, c'est mon dernier contrat, on va changer un peu. Eh ben non, c'est même plus une langue de bois, c'est une langue de chêne, mais vraiment très dur.
Le revers du bâton.
C'est exactement, un bâton bien dur, tu vois. C'est incroyable. Il ne donne rien, Didier Deschamps. Et le pire, c'est que.
Mais je comprends pas ce qui te surprend, en fait. Parce que
ça me surprend pas.
Même si t'as des émotions à la Coupe du Monde, les confs, c'était déjà ça.
Oui, mais je suis pas surpris. C'est pas un avis d'un mec surpris, c'est l'avis d'un mec énervé. Et ça y est, en fait. À un moment donné, on veut un peu. Didier Deschamps, t'as tout gagné. On va pas t'expliquer ton métier, mais s'il te plaît, donne-nous un peu. On vient en conférence de presse, on t'écoute. Parle-nous du jeu. On est là, on fait une conférence de presse. Il reste 12 minutes sur le capitanat. On s'en moque royalement. J'avoue que les journalistes, ça les intéresse un peu. Ça les intéresse un peu. C'est un sujet.
Parce que c'est qu'on n'a pas la réponse et que.
Non, on n'a pas la réponse. Le lendemain, on a un tweet fait à l'ancienne avec un Photoshop. Le capitaine de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé.
Mais alors attends, toi qui es très réseaux sociaux. En quoi ça te gêne que finalement ils communiquent sur les réseaux?
Déjà, c'est une
décision. Je me fais l'avocat du club exprès, moi je suis le premier à dire que
déjà,
c'est
déjà une décision de vestiaire. Dans ces cas-là, j'aimerais bien qu'on ait un tweet qui tire les coups de pied arrêtés. Tu te rends compte qu'on a tweeté sur une décision de vestiaire. Moi, je m'en fous en fait de cette info-là. Parle-moi de football ou parle-moi de. Tu vois, par exemple, dans la presse quotidienne régionale, il dit j'arrête la défense à 3, c'est moins une option. Sur la défense à 4,
c'est parce qu'on lui pose la question, non?
C'est plus. Mais arrête. Chez nos confrères de Tout le Sport, et j'embrasse Thomas Lévesque, qui lui dit est-ce que vous n'avez pas l'impression
Fabien,
pardon.
On embrasse
Fabien
Lévesque. On l'embrasse Jean-Louis.
Je la refais. On embrasse Damien Lévesque.
L'arnaque, ce mec.
Fabien, non, mais il y en a des mille de Lévesque. Fabien, je t'embrasse. Il lui pose une question un peu intéressante. Et Thomas aussi, je t'embrasse. Laissez-moi un peu de sérieux. Et donc, il pose une question assez intéressante. Il dit, est-ce que vous avez, en gros, c'est vous n'avez pas l'impression de prendre en otage un peu l'équipe de France? Et tu vois, il te tend une perche sur un truc où tu peux raconter ta vie, tu vois. Rien. Il n'y a rien qui ressort. Et ça me frustre parce que moi, j'ai envie qu'il me parle de football, j'ai envie qu'il me parle de ses envies. Et même si tu veux nous dire que tu vas verrouiller, ça, on s'est fait à l'idée de ça. On sait que ça ne va pas être la folie et tout. Raconte-nous, tu vois. Raconte-nous ce que tu veux mettre en place. Pourquoi tu mets Kamavinga latéral, même si on l'a vu jouer. Pourquoi toi, pour toi, dans ta tête, il est titulaire au Real en tant que milieu défensif. Mais pourquoi c'est ton latéral, tu vois?
Oussem, juste. La dernière fois, alors c'était en plateau 7, hein, mais la dernière fois qu'il y a un membre, on va dire, de la fédération qui a un peu dit ce qu'il pensait, dans l'esprit Didier Deschamps, c'est ce qui lui a coûté son poste.
Non mais là, on n'est plus dans ça avec Didier Deschamps. Mais attends, tu crois que...
Je pense à Noël Le Graët, tu sais, qui s'est exprimé sur Zidane.
Mais non,
dans l'esprit, je t'explique, dans l'esprit de Didier Deschamps, je te dis pas que c'est ça, mais dans son esprit, c'est de toute façon, quand on dit ce qu'on pense, regarde où ça te mène derrière.
Non, mais Didier Deschamps, il est même plus dans ça. Sa carrière, elle est faite, il est là, c'est un gagnant, tout ce que tu veux. Mais
non, mais là par exemple,
parle-nous.
On avait un peu touché le sujet hier soir quand on a vu justement le fameux tweet annonçant le capitanat. Et c'est vrai que sans basculer dans l'extrême où qui était vraiment roue libre totale, qui était Noël Le Graët. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire, il était en conf la veille ou le jour même.
Il dit
OK, jeudi, je vous le dis. Et le lendemain, t'as un tweet comme disant, en plus c'est pas une vidéo bien produite, un truc, tu dis bon ok, ils veulent faire un truc bien fait.
C'est juste, tu as vu, oui, tu l'as vu le retour du baron noir. C'est pas le bâton, c'est pareil.
le revers du baron.
Il y avait dedans un épisode qui ressemblait beaucoup à ça. Moi, la seule explication que j'ai, hypothèse qui en vaut 100 000 autres, c'est que c'était dealé avec un média partenaire de l'équipe de France, que finalement ils ont appris que ça allait fuiter dans d'autres médias, parce que ce média-là est un média hebdomadaire, donc
penses à Téléfoot,
oui,
ouais, qui a tweeté hier.
Et je pense que c'était prévu et que c'était vu et que malheureusement c'est ça, comme ça allait sortir avant, ils se sont dit bon bah tant qu'à faire on va faire un tweet nous, ouais. Au moins on donne l'impression de, ça arrive des milliers de fois dans la communication des clubs, ça m'étonnera pas que m'étonnerait pas que ça soit aussi le cas en sélection nationale.
Tiens, juste ça vient, c'est fini, ça vient de se terminer, quart de finale aller de Ligue des Champions féminine entre l'OL et Chelsea, et ben les Lyonnais ont perdu, les tenants du titre. 1-0, défaite 1-0 de l'OL. 21h, Paris Saint-Germain-Wolfsburg. On suivra ça avec Anthony Reich, bien sûr. Simon, t'as pas entendu là-dessus ?
Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis un peu partagé parce qu'effectivement, moi aussi, je me suis infusé la conf de Didier Deschamps. Et effectivement, alors j'ai coupé le son, j'ai baissé un petit peu de temps en temps, mais de temps en temps, j'ai allumé. Et il y a eu un passage terrible, effectivement. On va le chercher sur le capitanat. Et quand t'aimes pas l'exercice et tout, t'essayes de prendre les raccourcis, tu fais des réponses un peu lapidaires de 30 secondes. Et là, tu sens qu'en fait, il veut rester simple, il veut montrer qu'il est détendu. Et en fait, il a ce sourire crispé de quand il est stressé et quand il est emmerdé par une question. Et du coup, il fait des périphrases, il s'enferme dans des phrases de 14 kilomètres. Il a fait une réponse de 4 minutes, je pense, sans effectivement nous dire quoi que ce soit et nous livrer. Donc, je partage ton avis, Oussem. C'est contingent au fait qu'il est sur le banc et qu'il dirige les entraînements et les matchs. Et que, effectivement, moi, je considère qu'il est toujours très légitime.
En plus, il ne le fait pas maintenant. Tu vas le faire quand?
Mais moi, tu ne le changeras pas. Il a quand même été capitaine dans toutes les équipes quasiment où il a joué. Donc, si tu veux, les confs de presse, il les a bouffés comme joueur avant les événements. Je pense qu'il y a une méfiance qui s'est construite et une prudence, au moins, qui s'est construite au fur et à mesure de sa carrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que avant on en avait deux qui étaient un peu chiants, oui, en conf, et maintenant t'en as un qui va te
j'ai hâte d'avoir des infos sur les briefs d'avant conf.
Ça va être plus drôle avec Mbappé qu'avec Loris.
Il y a Kylian Verhoeven, notre prof, qui dit il dit en gros, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça avec les sélectionneurs, les mots, du moins les derniers de l'équipe de France. C'est quand la dernière fois que vous avez kiffé en conf,
Raymond Domenech, même si on n'aime pas, même si on n'aime pas,
je dirais qu'au moins avec Raymond c'est clair.
Même si t'aimes pas et qu'il dit des trucs de fou, moi ça me faisait rire
aussi.
Alors c'est pas ce qu'on attend d'un sélectionneur, peut-être, tu vois, peut-être autre chose, mais
vous vous souvenez d'une de ses premières à Domenech où il dit ah ben désolé, là j'ai dû racler les fonds de tiroir ou un truc comme ça.
Mais il est en PLS à chaque fois. C'était
François Manardo.
Le patron.
Il va te dire, c'est le portugais.
Bien sûr.
Donc on embrasse François aussi. Bien mais sûr. Pas Mickaël.
Mais par contre, les mecs, désolé, je vais peut-être vous démoraliser encore plus, mais.
Ça changera pas.
Là. Non seulement ça changera pas, ça concerne la communication, mais ça va aussi concerner là les matchs qui arrivent, parce que je vous le dis tout net, Deschamps, pendant 2 ans, vous allez tirer zéro enseignement, il changera au dernier moment, comme là au Mondial qui s'est passé, où au final, il a fait une liste au dernier moment, tu savais pas où il voulait en venir, et puis finalement, Griezmann, relayeur, machin, il adaptera un truc au dernier moment.
Je ne rentre même pas là-dedans.
Donc en fait, mais c'est pour ça
le
que,
jeu.
En fait, là, on est dans une période où on va vivre, et c'est terrible, le seul jeu que tu as, c'est de regarder les joueurs en équipe de France qui ne vont être là que pour cette période. C'est des mecs qui fréquentent l'équipe de France dans des moments creux. J'en ai noté quelques-uns. Kevin Gamero, Jérémy Mathieu, Loïc Rémy, Lévin Kurzawa.
Et là, dans la liste qu'il y a en ce moment,
Tanguy Ndombele, Alassane Pléa,
et là, dans la liste qu'il y a en ce moment, tu penses que
Romain Alessandrini,
qui fera partie de
Romain Alessandrini. Romain Alessandrini, c'est différent, en plus, le pauvre, lui, c'est pire. Sur cette liste-là, bonne question,
je me dis, franchement, il y a une nouvelle génération, il y a de quoi faire, lâche-toi, tu vois, et en plus, je comprends qu'il botte en touche quand c'est des sujets un peu touchy, que tu vois, par exemple, qu'on lui ramène l'affaire Benzema, qu'il n'a pas envie d'en parler parce que peut-être qu'il a dit quelque chose qu'il aurait pas dû dire. Ça, je comprends tout à fait, ça serait fou de répondre naturellement. Allez, là-dedans. Mais franchement, donne-nous autre chose. T'as tout gagné. Donne-nous autre chose.
Allez, venez réagir au 32-16. Est-ce que vous êtes saoulé, vous aussi, blasé, comme Oussem par la
Comédie des
Champs?
Et des fois, il y a des coachs des attaquants. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste un coach de conférence de presse? Tu vois?
Tu
un mec
plat,
qui vient juste pour faire ça.
Oui, pas faire ça.
Peut faire ça, tu vois le plat. Ouais, mais moi je le fais déjà avec toi.
Je fais beaucoup de comptes de
toute sa visite.
On vous attend en 32-16, venez réagir. Hein. On est à 4 jours de ce match de l'équipe de France face aux Pays-Bas avec Simon Dutin, avec Oussam Loussaïef, avec Romain Canouti. Et puis il y a du monde sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. On aime les entraîneurs qui ont une communication à la Mourinho, nous dit FK Zayen. Mais pourquoi Deschamps est encore là pour l'équipe de France, nous dit Fedia. Voilà. Allez, à tout de suite, on revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Il est 20h50, vous êtes sur RMC, on est toujours avec Romain Canouti, avec Oussam Loussaïef, avec Simon Dutin, avec vous également, alors sur l'hashtag RMC Live au 32-16, vous nous appelez pour réagir. On parle de l'équipe de France hein, qui jouera vendredi face aux Pays-Bas, premier match post-Coupe du Monde. Et alors, vous savez que pendant qu'il y a les pubs, on est toujours en direct sur la chaîne
on a des
RMC
infos
Sport,
pour
la chaîne Twitch RMC Sport. Et là, sauf que le son est coupé.
Mais oui. Heureusement.
Voilà. Oui. Oui, parce et là, les mecs fantasment. Mais vous pensez qu'ils se disent quoi? Bon, est-ce qu'ils vont bouffer ce soir?
Eh bah, c'est vrai. Alors, Nico vient de nous l'annoncer, ça sera un hachis parmentier quand tu rentres.
Alors, c'est pas très loin de ça, mais c'est pas ça.
Ah, c'est pas ça.
C'est un. Non, ah, non, c'est pas ça.
Non.
Ah, mais d'accord.
On les embrasse sur le live.
Non, j'ai mangé des lasagnes à l'aubergine, figure-toi.
Tu fais ce que tu veux avec l'aubergine. Tu fais ce que tu veux.
Tu vas manger, toi?
Moi, je ne sais pas. Ma surprise.
Ah ouais?
En général, quand tu dis ça, c'est qu'il n'y a rien.
Ouais.
Non, bon. Je me prépare pour le ramadan qui commence demain.
Bah, justement, faut manger alors, non? Ou déjà, t'adaptes.
Ouais, ah, non, ouais. Depuis quelques jours, déjà, j'équilibre mon envie de manger.
C'est bien, c'est pas mal ça.
Ouais, on va parler de d'ailleurs, c'est l'un des thèmes qu'on va aborder dans la deuxième heure. Hein. Vous savez que la PL, vous le savez peut-être pas, il y a l'info, vous pouvez aller lire sur RMC Sport, il y a tous les détails. Mais ils vont faire une coupure pendant les matchs pour que les joueurs musulmans puissent rompre le jeûne. Donc venez réagir au 32-16.
Ça se faisait par parcimonie la saison dernière, et là c'est officiel.
Bah,
là,
il l'avait fait une ou deux fois, ouais. Mais,
oui, oui, avec Wesley.
Ils veulent officialiser, c'est les arbitres qui ont pris cette décision.
Nico, juste, puisqu'on parlait de Domenech, j'ai une question à te poser.
Il est très bon ami de Nico.
Ben, je sais, enfin, je me souviens pas, parce que ceux qui nous écoutent s'en souviennent plus ou machin, ça va. Mais tu es quand même celui qui a animé une émission avec Domenech après 2010.
T'as même commenté des matchs. Juste après, parce qu'il a fait deux, trois ans de J'arrête les médias.
T'as commenté des matchs.
Et on l'a commenté, on a commenté du national, mec. C'était extraordinaire. On faisait les déplacements.
Sur MCS.
Chaîne Sport à l'époque, il avait fait, ce qui était assez fou d'ailleurs. On était une toute petite chaîne.
Oui.
Et t'as Raymond Domenech qui débarque. Le gars fait sa rentrée médiatique trois ans après Nicena et il vient chez c'était ouf.
Et
on a fait des matchs au Portugal aussi, c'était très bien. Ouais. Ah ouais, moi j'adore.
Je vous ai regardé. Je t'avoue que je l'aimais pas. Je trouvais pas. Je trouve qu'il donnait pas beaucoup en public. Mais toi, qui l'avais du coup en privé, c'était comment? Est-ce qu'il était
Même nous, les émissions, on faisait des plateaux aussi, des trucs. Il envoyait de fou. Mais même encore là, l'équipe, s'en fout, il envoie la chaîne.
Il en a rien à faire.
Lui,
pas dans le calcul.
Il envoie. Après, forcément, là,
il envoie n'importe quoi.
Nous, il arrivait. Il revenait, il était un peu, tu vois, encore traumatisé. Oui, il y avait encore les cicatrices de Nice, etc. Non, franchement, moi, ça a été une super expérience.
On a le droit d'avoir critiqué le sélectionneur.
Bien sûr.
Certains, faut dissocier l'homme de l'artiste.
Pas tout le temps.
Attention. Les derniers qui ont employé cette phrase. Je suis pas totalement.
J'ai entendu pour Ségolène Royal récemment.
Parce que c'était une artiste, donc.
J'ai vu passer ça sur Twitter.
Okay. Voilà. Okay. Tu vois, par exemple, pour Nico Villas, tu peux pas dire ça. C'est séparer l'homme du fraudeur fiscal.
Les problèmes.
Ouais. On évoquait les choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine en équipe de France. On a longuement évoqué ça, notamment hier. Et hier, Antoine Griezmann, joli cadeau pour ses 32 piges, puisque c'était ses 32 ans. Et il a fêté ça avec le groupe France, le tout, dans une vidéo publiée, par la FFF.
Toujours un honneur d'être ici, de représenter le football français et la France, de pouvoir partager des moments avec vous. Voilà, merci. Je vois que le gâteau s'améliore d'année en année. Merci le chef. Et bienvenue à Brice, Kefren et JC. Et voilà, je vous ai préparé trois petits cadeaux, donc trois petites chansons.
Les trois chansons dont il parle, en fait, c'est le bizutage des trois nouveaux. Derrière, on fait une petite chanson. Il a été très, très bon, d'ailleurs, Kefren Thuram.
Oui.
Vous pouvez retrouver les vidéos sur RMC Sport.
Il est en concert.
Mec, il a été acclamé, tout le monde se met à chanter.
Ah oui, en concert, il a la gestuelle, il y a tout. Ouais.
En mode rappeur. Bon, visiblement,
Kalash.
En tout cas, ouais,
tu connaissais, d'ailleurs.
Je connais, j'ai un petit frère qui a 20 ans de moins que moi, donc j'essaie de me tenir un peu à flot.
Et je peux vous le dire.
Voilà.
On va accueillir Paul, qui nous a appelé au 32-16. Salut, Paul.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Salut Paul.
Salut Paul.
Pardon, j'ai pas entendu.
Je te demandais si ça allait, tout simplement.
Ah bah oui, bah très bien.
C'est une première bonne réponse.
On fait aller tranquillement.
Ah, c'est pas fou alors, on fait aller.
Bah écoute, c'est un peu dans l'ambiance générale, un peu morose. Mais ouais. Bon,
parle-nous, Paul, qu'est-ce qui se passe?
Bah, je vous écoutais, et puis je voulais réagir un petit peu sur la com de Deschamps, etc., tout ce que vous en disiez. Moi, je suis un peu d'accord avec Oussem sur le fait de prendre 4 ans ferme. Moi, je vais être honnête. Ouais, non, en fait, je suis complètement aigri en ce moment. Voilà, je suis Rennais, je suis porteur Rennais.
Okay.
Le masque tombe.
Lâche-toi. Tu sais, mais moi-même, j'ai un très bon ami supporter du Stade Rennais. Jérôme Thomas.
Lâche-toi.
Il y en a pas mal d'ailleurs.
Il y en a pas mal. Vas-y, lâche-toi, Paul.
Ouais, non, mais j'ai un dossier sur Jérôme Thomas. Non, je peux pas en parler à l'antenne.
Oui, tu peux pas en parler à l'antenne, j'imagine.
Non, je peux pas. Et du coup, on est complètement dans l'aigreur. Et puis, Didier, c'est un peu comme Bruno. Je pense que c'est même dans le foot, de manière générale, qu'il faut recontextualiser. C'est qu'il manque maintenant des gens avec un petit peu de coronesse, parce que j'ai du sang espagnol aussi. Et du coup, Galtier aussi. C'est beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de parlotte et peu de faits. Si on reprend le cas Didier Deschamps, il parlait des gens qui pouvaient être sélectionnables, notamment dû au niveau. Le niveau international, la Ligue des Champions, c'était hyper important. Et là, on voit qu'Efren Thuram qui arrive. Alors, je ne vais pas critiquer le joueur, parce qu'en tant que Rennais, j'aurais bien voulu leur piquer à Nice, parce que c'est un super joueur, je pense. Mais en tant que Rennais aussi, je pense à Bourrige, à Terrier de l'année dernière.
C'est pas le même profil. Là, si tu veux comparer avec Efren Thuram, moi j'aime beaucoup Bourrige, mais c'est pas du tout le même profil.
Mais après, on va rentrer dans le comment on forme un groupe,
oui,
joueurs à quel poste. Il y aura toujours des débats sur comment ils les utilisent, etc. Moi, je te parle sur le. Alors, bien sûr, oui.
Dans la liste des milieux de terrain, quoi, c'est ça.
Voilà. Et moi, c'est plus les principes de ce qu'on entend aujourd'hui. Vous êtes très bien placé, vous en parlez tous les jours. Tout ce qu'on entend, je trouve qu'il manque un peu de gens avec. On en revient toujours à l'arbitrage et ça. La compétence, en fait. Moi, je trouve vraiment la compétence, elle est manquante parce qu'on se cache beaucoup sur de la langue de bois en conférence de presse. Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés tous les jours aussi, que des gens comme vous existent. Donc, ne pas trop alimenter, ne pas trop prendre une position avec des vraies valeurs. Donc, la valeur de l'honnêteté, moi, pour moi, c'est comme ça que j'ai été.
Mais tu sais ce qui est le pire dans tout ça, Paul, et ça Romain et Simon pourront te le dire, c'est que maintenant les clubs sont de plus en plus structurés au service communication. T'as des conseillers en com et des attachés de presse, mais t'as des cellules maintenant entières. T'as plus un seul mec, c'est pas
des cours de com même donné.
Et t'as tout. Mais tout ça est travaillé et puis avec l'influence du digital aussi, c'est travaillé. Sauf que, alors, j'ai même pas envie de dire que c'est générationnel, parce qu'il y a des entraîneurs qui viennent d'une ancienne génération qui maîtrisent un peu plus ces codes-là. Je pense que c'est un intérêt. Peut-être qu'il faut juste seulement s'y intéresser et donner autre chose, tout simplement.
Allez, Bamos, merci d'avoir été avec nous, Paul.
Bonne soirée.
Bon courage, Paul. Mais c'est rien, c'est que du foot, hein. C'est pas grave. Et puis c'est bien la Conférence League.
Ciao,
Paul.
T'as raison. Ciao Paul, à très bientôt. Nous on revient dans un instant. Tiens, il y a le coup d'envoi éminent également du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg.
Parc des Princes.
Ouais, et on va aller voir Anthony Reschke au parc dans un instant. Je vous rappelle que Lyon a perdu tout à l'heure 1-0 face à Chelsea. On revient dans un instant.
Qui s'est tourné pour regarder ça comme si ça l'intéressait.
Avec Simon Dutin, Samuel Saïef, avec Romain Canouti. On vous attend au 32-16. Tiens, avis tranché également de Simon à venir dans un instant sur l'Olympique, sur l'Olympique Lyonnais.
Olympique Lyonnais.
Rappelle-nous ce que c'est, Simon.
Il a kiffé la première
partie. J'ai cru voir la patte Laurent Blanc pour la première fois.
Il a vu du Bordeaux, du
PSG. Pas parce que c'était deux choses concomitantes. Ils ont démarré en 4-3-3 et Ryan Cherki était sur le banc.
Il
veut taper sur les jeunes.
Venez au 32-16, nous on revient juste après ça.
Génération After.
RMC.
Comment c'était ce dessin animé où il y a des chiens là?
Les Aristochats?
Ouais, un dicton qui dit mieux vaut en prendre qu'un en un match qu'une fois quatre buts.
Dans la défense centrale aussi, il y a des questions. Bon, il y a Christensen qui est arrivé, mais qu'est-ce que tu fais du Capouyol?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Oussem Loussaïef, Romain Canouti, avec Simon Dutin, on est en direct, toujours également sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Vous venez réagir, on a fait une grosse page équipe de France il y a quelques instants. Avis tranché de Simon Dutin dans un instant également, vous attend supporter de l'OL au 32-16. Il trouve que ça y est, la patte Laurent Blanc est en train d'apparaître, va nous expliquer Simon Dutin. Et comme par hasard, c'est quand Ryan Cherki joue pas, alors que Ryan Cherki joue pas depuis un match titulaire. Enfin bref, allez comprendre cet homme.
La patte de la France.
On a caricaturé. Ma pensée que j'avais tenté de construire.
C'est pas vrai, il va nous expliquer ça, nous détailler ça dans un instant, Simon. Avant cela, Quart de finale aller de Ligue des Champions, quart de finale de Ligue des Champions féminine. Lyon a perdu, ça vient de se terminer face à Chelsea. PSG Wolfsburg, coup d'envoi imminent en Suisse avec Anthony Reich qui est au Parc des Princes. Salut Anthony.
Salut Nico, salut à tous. Salut, c'est même Anthony. Parti ici au Parc des Princes. Je pense que vous avez un petit peu de retard sur vos écrans, oui. En studio. C'est parti depuis une petite minute de jeu dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions féminine entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg. Un énorme morceau pour les joueuses de Gérard Prêcheur, hein. Wolfsburg, une des places fortes du football féminin européen, double championne d'Europe, la seule équipe quasiment qui a un peu freiné la suprématie lyonnaise des années 2010, et composée de stars du football féminin, notamment Alexandra Popp, deuxième joueuse au classement du Ballon d'Or notamment, il me semble. Attention peut-être à cette action parisienne, Kadia Toudiani qui récupère un ballon dans la surface à crochette, elle essaye de centrer, c'est bien défendu par la défense allemande. Toujours 0-0 après 3 minutes de jeu, mais ce soir les parisiennes sont loin d'être favorites. Il va falloir créer l'exploit face au Louvre de Wolfsburg.
Alors je t'annonce, c'est pas un décalage qu'on a, c'est un jet lag, hein.
Petite question, Anto, Fazer est sur le banc.
Fazer est sur le banc, ouais, tout à fait. Milieu un petit peu remanié, puisque Grace Guillaureau est redescendue d'un cran en défense centrale à cause des nombreuses blessures. Et du coup, l'entrejeu est animé par Ramona Bachmann, Kera Amraoui et Oriane Jean-François.
Dis-moi, Anthony, toi qui es le spécialiste foot féminin chez RMC, Lyon qui perd contre Chelsea à domicile à ce quart de finale aller, ça te surprend ou pas?
Demi-surprise sur la physionomie de la rencontre. La première période est vraiment à l'avantage des Lyonnaises. Elles se font prendre sur une perte de balle un peu bête d'Ellie Carpenter, l'Australienne. Après, la deuxième période a été plus équilibrée, mais les Lyonnaises ont connu une phase de poule très compliquée. Elles n'ont pas gagné face à la Juve et elles ont pris surtout une sévère défaite. Elles ont encaissé une sévère défaite en poule face à Arsenal, un 5-1 à l'automne. Donc elles se sont qualifiées en étant deuxième de groupe. Et Chelsea est un des poids lourds cette saison européen, avec une fameuse Samantha Kerr, l'attaquante australienne, qui est une des meilleures du monde à la pointe de l'attaque. Et de la densité physique de cette équipe londonienne impressionne depuis le début de saison. Donc c'est une demi-surprise, même si je pense quand même que Lyon peut encore aller chercher la qualif au match retour.
Antoine, on vient juste de voir l'action. On devait commenter tout à l'heure.
On est bien, les gars.
Ouais. Je te dis, c'est un jet lag. C'est vraiment...
Je pense qu'on a 2h30 de.
Mais c'est les joies de la diffusion actuelle de la Ligue des Champions.
C'est DAZN, hein, c'est ça?
Ouais, c'est sur DAZN. Donc,
qui est dispo sur YouTube, quoi.
Voilà, c'est incroyable.
Donc forcément, il y a un décalage. Antoine, tu réagis quand tu veux. T'hésites pas. Dès qu'il se passe quelque chose, donc dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions féminine, 0-0 pour l'instant entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg. Place maintenant à notre bonne vieille Ligue 1, place à notre Olympique Lyonnais, Olympique Lyonnais, 10e de Ligue 1, qui reste sur 3 nuls de suite. Mais Simon Dutin y voit du mieux, avis tranché.
La solidité défensive de cette équipe, qui est une arme nouvelle à son arc.
C'est pas mal ça. Qu'est-ce qui pose problème
avec
cette
arme? Ouais, mais alors, moi j'avais fait 4 heures d'antenne, il était 6 heures du mat, Vias me faisait des vannes, moi j'en pouvais plus, voilà, c'est tout seul, ça. Vous êtes dégueulasse.
Après, achète-toi une personnalité et une excuse, hein.
Excellent,
personnalité.
Ah oui, d'accord. Ah ouais. Alors, toi tu dis, j'ai aperçu la lumière Laurent Blanc tout au bout du tunnel lyonnais, sans Ryan Cherki.
Et il est passé.
Non, mais alors c'est ça. Le sans Cherki, ouais, ça vous a plu, hein, quand je vous ai soumis cette idée. Mais effectivement, ouverture de la 28e journée, Lyon, Nantes, effectivement.
Un partout, hein.
Oui, voilà. Oui. Donc ça gagne mal, pas. Effectivement, derrière, en plus, tu vois, les jours suivants, le discours, c'est que ça gagne toujours pas à Lyon, alors que bon, ça va quand même mieux là depuis une dizaine de
matchs. En défaite, ouais.
Mais bon, il y a cette perte de balle de Cacré qui les met dedans dès le début, oui, du match. Et effectivement, donc tu te retrouves à jouer derrière contre une équipe aussi pénible à jouer que le FC Nantes. Bon, derrière, j'ai noté quand même, il y a une réaction. Effectivement, qu'est-ce qu'on attend des équipes de Laurent Blanc? Qu'est-ce qu'il nous a vendu aux Girondins de Bordeaux et au Paris Saint-Germain? Des équipes qui tiennent le ballon, qui ont confiance en leur jeu, qui combinent, des milieux de terrain qui jouent, les redoublements de passes, des attaquants qui décrochent pour ouvrir des espaces, du beau, ce qu'on a coutume d'appeler du beau football, du beau jeu, voilà, le fameux beau jeu. Et je trouve, voilà, que en première période, même si il n'y a pas eu l'efficacité que tu peux attendre, j'ai vu quelques séquences de jeu, des redoublements de passes, des combinaisons, et notamment surtout la très longue séquence qui amène au but de la Cazette. Bon, effectivement, il est pas fait le but, on en parlait en antenne. Effectivement, il y a un jeu de corps exceptionnel.
On peut dire merci à Alexandre.
D'accord, mais pour que le ballon, tu vois, le but c'est quand même d'amener le ballon dans la surface, oui, oui, au football, et après, oui, effectivement, c'est un attaquant, un bon attaquant. J'ai vu effectivement des choses, des combinaisons et une entente entre les joueurs et de la spontanéité dans les transmissions, les redoublements, même les mecs qui venaient demander le ballon sans le recevoir mais qui du coup ouvraient un peu le jeu pour le reste d'une équipe lyonnaise qui, je sais pas, par séquence, j'ai trouvé très 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 séduisante. Effectivement, ils ont démarré le match en 4-3-3 avec le penant Tolisso et Cacré au milieu de terrain. Et bon, devant ils ont un problème avec Sarr là, le Suédois qui à mon avis est pas fait pour jouer à gauche, mais c'est évidemment un autre débat.
Ah bah pour moi il est pas fait pour jouer dans l'axe, donc il est peut-être pas fait pour jouer à Lyon. Hein,
bah mais... Peut-être qu'il est pas fait pour jouer.
Il y a quand même
beaucoup de scouts qui nous ont vendu comme un super joueur, donc il faut lui laisser le temps de s'adapter. Mais écoute, j'ai revu des bribes effectivement et je me suis mis à la place des supporters lyonnais. Je me suis dit bah c'est il y a de l'espoir, c'est beau, c'est pas mal, ça a de la gueule, voilà. Et effectivement. Comme je suis pas un super lyonnais, effectivement, il a fallu à la mi-temps pour que je me dise ah mais ouais mais Cherki est pas sur la pelouse. Et donc je m'imaginais bon comment est-ce qu'il va rentrer, est-ce que c'est parce qu'il est moins bien machin. Je suis allé non il était sur le banc. Et en seconde période, Lyon cherche à gagner. Il y a un partout. Bon ben Blanc il tente des trucs. Il fait rentrer Cherki avant de faire rentrer Aouar quelques minutes après. Et en faisant rentrer Cherki, je trouve que le jeu lyonnais, ils sont passés en 4-2-3-1 pour que Cherki joue dans l'axe derrière l'attaquant. Et j'ai trouvé que le jeu, alors peut-être que c'est l'équipe générale, il y a de la fatigue, j'en sais rien, avait moins de fluidité, moins de spontanéité, que Lyon était un petit peu moins confiant dans son jeu, que ça jouait moins bien collectivement. Et en revanche, avant que les fans de Cherki me tombent dessus... au milieu de ce désert collectif, et ben un mec comme Cherki, sur une, deux, trois fulgurances, il a failli quand même te changer le match à lui tout seul. Donc c'est pas un avis tranché, c'est pas que Lyon c'est mieux sans Cherki, mais je me demande quelle voie va choisir Laurent Blanc, parce que pour moi le seul accomplissement de Laurent Blanc depuis son arrivée à Lyon, c'était d'avoir donné un petit peu de solidité, tu vois, de corps à ce Cherki qui était juste un jeune espoir, un jeune talent. Il a transformé en quasiment en leader de son Lyon jusqu'ici. Donc je me demande quelle voie il va suivre et je vous pose la question, messieurs, qu'est-ce que vous pensez qui convient le mieux au jeu lyonnais? Voilà.
Moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas, parce que tu parles du 4-3-3 face à Nantes. Il y avait un 4-3-3 face à Lorient, il y avait un 4-3-3 face à Lille. Et dans ces deux 4-3-3-là, par exemple, pour parler de Cherki, il a joué dans le côté gauche de ces matchs-là. Ça, je comprends pas pourquoi c'est ce match-là qui te fait sentir la patte.
Je n'ai vu que les résumés des matchs précédents, donc je concède effectivement, peut-être que je manque de... de vision sur l'ensemble des performances lyonnaises.
Non, mais je me suis dit peut-être qu'il y avait un truc en plus à Nantes qui t'a, mais ou un en plus, truc en moins, parce que tu fais de la langue de bois autour de Cherki, mais tu veux pas le dire clairement, mais en même temps, t'es adepte de Didier Deschamps, je comprends.
Donc t'aimes pas les vrais joueurs.
Non, mais peut-être qu'il y a un truc en plus que t'as vu et que, parce que c'est des 4-3-3 similaires sur les trois derniers matchs, tu vois.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que moi, je suis convaincu que pour utiliser au mieux les qualités de Cherki, le 4-2-3-1 lui ira mieux, lui dans l'axe derrière l'attaquant, et je considère que c'est avec cette formule que Laurent Blanc a développé le plus beau football,
à Bordeaux,
notamment aux Girondins de Bordeaux, où il avait soit un Cavenaghi, soit un Gourcuff derrière un avant-centre qu'il appelait la planche.
C'est pas pareil.
Donc que ce soit pas pareil et que le football ait évolué entre temps. Ce que je veux dire, c'est que ce Cherki, c'est un mec, moi, je suis content que Lyon l'ait gardé. Je suis content, j'ai envie de voir ce qu'on nous promet depuis des années de ce phénomène. Moi, je suis fasciné par quand tu nous annonces un phénomène de 16 ans qui joue déjà avec les pros ou qui titille déjà les pros. Moi, j'ai envie de voir. Et effectivement, c'est pas parce que j'ai trouvé que le 4-3-3 fonctionnait très bien sans Cherki en première période que ça me réjouit. Ouais. Moi, je veux un grand Cherki dans un grand
4-3-3 Lyon, voilà. Ou autre chose. C'est ça.
Et moi, je considère que Cherki, le 4-3-3, c'est pas pour lui.
Moi, j'avais fait un avis sur Laurent Blanc juste après la Coupe du Monde et j'avais mis en avant le fait que je comprenne pas ce qu'il essayait de mettre en place, surtout qu'il avait la chance lui d'avoir son groupe pendant cette trêve internationale de la Coupe du Monde. Donc il nous avait promis du travail et juste après on voyait pas trop les ingrédients. Là après quelques matchs, moi je ne dis pas comme toi que je vois le Laurent Blanc de Lyon ou de Bordeaux pardon ou de Paris. Et ce que j'aimerais voir franchement, parce que ça nous a fait kiffer, disons-le clairement, même si certains n'aiment pas le coach ou ce que tu veux, c'était agréable à regarder. Moi à Bordeaux j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Mais en tout cas je vois qu'il y a certains joueurs qui ont progressé. Et notamment le penant au milieu de terrain. Alors je ne sais pas si c'est parce que Tolisso est beaucoup plus présent à côté de lui et que ça lui permet d'être drivé. Et je pense que ça a un peu un impact, parce que moi quand je vois l'attitude de Tolisso,
il a haussé le curseur Tolisso ces derniers temps.
Quand tu vois l'attitude de Tolisso, l'attitude de Lacazette, tu te dis ces mecs-là sont là pour accompagner des joueurs comme Cherki, etc. J'ai lu quelques bribes d'une interview de la Gazette où il parlait de Cherki. Je sais pas si c'était une conférence de presse ou si c'est une interview, pardonnez-moi, mais il disait, voilà, j'ai entendu plein de choses, moi, sur Cherki avant d'arriver à Lyon. Et puis quand j'ai discuté avec lui, j'ai vu que c'était un fan de football. Un grand, grand fan de football. Et je pense que, véritablement, c'est un fan de football qui a d'énormes qualités. Maintenant, je suis d'accord avec toi, on veut voir ça. Alors, on l'a vu, là, depuis le début de saison, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, on a vu quelques moments et quelques séquences sympas dans l'axe, sur un côté. Moi, je ne suis pas entraîneur, je ne sais pas quel est le poste qui lui sied le mieux, le plus, mais franchement, j'ai envie de le voir. Je ne pense pas que la première mi-temps que tu as kiffé, elle est due à l'absence de Cherki, sincèrement.
Non, mais je dis pas ça.
Je sais, mais j'éloigne ça de toi, parce que je sais que la langue de bois et tout, mais j'éloigne ça de toi. J'éloigne ça de toi. Je ne pense pas qu'il y ait une corrélation entre les deux, mais je suis d'accord avec toi. Là où Laurent Blanc s'exprime le mieux, c'est sur un 4-2-3-1 et un 4-3-3. C'est ce qu'il maîtrise le mieux. Alors, quel joueur? Peut-être qu'avec un retour d'Oussem Aouar, peut-être que ça peut être son numéro 10. Je sais pas ça. Mais moi, j'ai vu les derniers matchs de Lyon. Alors oui, c'est bien. Mais je suis désolé, le match nul contre Lille, ils doivent peut-être le perdre.
Merci la Cazette, c'est un miracle.
Ils rentrent, ils changent le match. Lille se fait un peu dessus sur les dernières minutes, mais tu sens que Lille avait la maîtrise de ce match-là, tu vois.
Tout à fait.
Donc je ne vois pas un Lyon vraiment au-dessus sur ces matchs-là. Et puis voilà, sur ton avis sur Cherki que tu veux maintenant tout de suite.
C'est pas un avis sur Cherki,
que tu veux faire disparaître. Mais moi, on m'a vendu ça. On m'a dit, il veut parler
au contraire.
De.
Romain, ton avis là-dessus. Est-ce que toi, tu vois une patte Laurent Blanc, comme dit Simon, je sais pas, sur les derniers matchs, par exemple. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de Cherki ou celle qu'on devrait en faire
là, le problème, c'est que je vous ai écouté tous les deux, les gars, et vous avez sorti une énormité à l'échelle. Vous êtes
allez,
excusé parce que c'est parce que ça date un peu. Bordeaux n'a joué jamais en 4-2-3-1.
Ah ouais?
Non. Bordeaux, c'était un 4-4-1-1 et en fait c'était en fait un losange où il avait rajouté en fait un mec au milieu du losange qui était Jaroslav Plazil. Au début c'était un 4-4-2 sur sa première saison.
Plazil, il est pas là l'année où ils sont champions.
Non, mais laisse-le au bout. Vas-y, parce que j'allais dire
2007-2008. C'est bien ce que je dis. Il démarre avec un schéma qui est le 4-4-2. 2008-2009, ils sont champions avec un 4-4-2, losange. Et l'année 2009-2010, il passe carrément à un 4-4-1-1, où en fait Gourcuff devient sous Chamac. Et c'est 2009-2010, une année où il y a Jaroslav Plazil, puisqu'il arrive à l'été 2009. Et Jaroslav Plazil est placé au centre du losange. Et c'est sur les premiers matchs de Ligue des Champions. Et c'est paradoxalement le meilleur Bordeaux de Laurent Blanc. C'est les 6 premiers mois de la saison 2009-2010, où je rappelle que Bordeaux finit en tête d'un groupe de Ligue des Champions avec le Bayern et la Juve. Et un Bayern qui ira en finale de Ligue des Champions cette année-là. Et ils sont avec, je crois, ils finissent la poule avec 16 points ou un truc comme ça. Ils se baladaient. Et en fait.
Mais parle-nous de l'union actuelle, là.
Justement. Donc, en fait, c'est pas du tout un 4-2-3-1. Et, si on veut faire un parallèle, jamais, Ryan Cherki ne pourra faire ce que faisait à l'époque Johan Gourcuff, qui était situé juste sous Chamac et qui avait donné la pleine mesure de son talent et qui était tellement bon dans ce rôle à la distribution que Laurent Blanc s'est dit ça sert à rien de mettre deux attaquants et qui avait un peu sacrifié Kavenaghi et qui lâchera totalement sur la deuxième partie de saison et Bordeaux coulera, ils finiront sixième. Mais la première partie était exceptionnelle et du coup, en fait, ce n'est pas pareil. Et en fait, là, l'utilisation de Laurent Blanc pour Cherki, si c'est un 4-3-3, c'est de mettre Cherki sur un côté et de voir, d'attendre à ce qu'il rentre un peu. Mais ça vient heurter ce que disait Simon sur le côté redoublement de passes. Il n'y avait pas ça, par exemple, à Paris. Il n'y avait pas ce joueur soliste qui part du côté gauche, qui machin. Donc, il y a plusieurs options. C'est possible. Je pense que c'est dans les cordes tactiquement de Laurent Blanc d'élaborer un 4-3-3 avec un Cherki sur un côté et de dire aux 10 autres les copains, vous êtes gentils, il va faire du Cherki, mais ça va vous faire gagner des matchs, donc vous allez tous l'accepter. C'est totalement possible, mais ce n'est jamais en transposant ce qu'il a pu faire à Bordeaux, en équipe de France ou à Paris.
Juste pour la vigie bordelaise, pour moi, après, peut-être que toi, tu veux rajouter des losanges ou ce que tu veux, mais moi, Fernando Diarra, c'était deux milieux défensifs. T'avais d'un côté Wendel, t'avais Jussier, t'avais Kavenaghi, t'avais Chamac. Moi, après, peut-être que toi, tu vois des losanges, hein, mais moi je les voyais à plat.
Vision, vous avez juste une vision géométrique opposée.
Après, je te l'accorde, je suis pas très bon.
Juste les gars, pour en revenir à l'OL quand même, parce que tu disais, Simon, toi, tu vois du mieux. Franchement, là, je regardais le calendrier de l'OL, les gars. Bon, il y a quand même des matchs où tu te dis, ça va piquer. Prochain déplacement au Parc. Déplacement qui suit, demi-finale de Coupe de France à Nantes.
Oui, voilà, c'est surtout ça.
Autre match à domicile, Stade Rennais. Tu te déplaces à Toulouse et tu reçois Marseille. Ça, c'est le calendrier
c'est
de l'OM.
Pas, non, mais... fou comme quand même.
Tu n'as pas le bon. Et ça va me faire très mal de le dire. Mais le calendrier de Lyon, là, tu l'as pas. Il n'y a que deux matchs. C'est une demi-finale de Coupe de France. Si. Et en cas de victoire, une finale de Coupe de France.
Tu penses
le reste, c'est des actions d'entraînement. Oui. Ils ont plus rien à jouer. Ils ont à se préparer pour une Coupe de France où il reste Nantes, Toulouse.
Et Annecy.
Voilà, je vais dire, je pense que, vu la situation financière de l'Olympique de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'une
place au classement.
De prendre un petit peu plus de millions sur les droits télé serait pas contre.
Une place au classement, ça reste une place au classement.
Quand même.
Il y a ce genre de choses. Dès le mois de janvier, février, ils avaient comme objectif vraiment cette Coupe de France et de se dire, voilà, c'est l'objectif prioritaire de Lyon.
On va marquer une pause, messieurs, dans quelques instants. Avis tranché de Romain Canouti, supporter du PSG. On vous attend au 32-16. Hein. Tu as parlé de galettes, notamment de Christophe Galtier.
Notamment, mais pas que.
Entre autres.
Mais pas que.
Avant cela, petit détour par le Parc des Princes, quart de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain face à Wolfsburg, Anthony Reich.
On a dépassé le premier quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre les Parisiennes et les Allemandes, et un premier quart d'heure à l'avantage des Parisiennes avec la première frappe cadrée du match à l'initiative de Kadiatou Diani, une frappe qui n'a pas mis en danger l'attaquante, la gardienne pardon, allemande. 0-0, 17 minutes de jeu ici au Parc des Princes.
On vous rappelle que tout à l'heure l'OL s'est incliné 1-0 à domicile face à Chelsea dans l'autre quart de finale de Ligue des Champions féminines concernant les clubs français. On revient dans un instant, supporter du PSG, Max vous attend au standard au 32-16. On sera avec Simon Dutin, avec Oussem Loussaïef et avec Romain Canouti. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Romain Canouti, Oussem Loussaïef, avec Simon Dutin, avec vous également au 32-16. Je vous rappelle que j'ai un chat dans la gorge, tiens. Merde. Le PSG joue en ce moment même son quart de finale à la Ligue des Champions féminine. On suit ça avec Anthony Reich. Ça bouge pas, Anthony.
Ça bouge pas, et là il y a une petite interruption parce qu'il y a une joueuse parisienne qui est restée au sol un petit moment. Ramona Reckmann, toujours 0-0 après 18 minutes de jeu ici au Parc.
Le Paris Saint-Germain, les garçons cette fois-ci qui sont inclinés le week-end dernier contre Rennes, et l'incertitude sur l'avenir de Christophe Galtier grandit. En première ligue, c'est le cas Antonio Conte qui fait parler. On est en mars et la grande valse des entraîneurs va débuter. Avis tranché de Romain Canouti.
La plus grande définition de l'histoire du football, c'est Véronique Rabiot. Bien sûr, le football est un sport où tout le monde ment, et tout le monde sait que tout le monde ment.
Quel homme, quel punchline.
Quelle femme, Véronique.
Je parlais de toi. Oui.
Non,
je parlais de toi qui parlais de toi.
Dominique, Véronique, c'est pour les deux, mais Véronique, c'est.
Ouais, c'est jamais. Pourquoi
je préfère et pourquoi préciser. Pas. Oui, on n'est plus assez.
Romain, ça peut être pour les deux.
Pas faux.
Et pourquoi pas.
Romain de Borges.
Et pourquoi on a poulet. Et pourquoi pas.
On embrasse Roland.
Alors pour toi, c'est pas une grande valse, mais c'est un grand cirque qui s'initie là.
Ouais, exactement. J'ai regardé un peu la situation de Conte, et j'ai vu celle de Galtier, et je vois en fait un parallèle saisissant. Alors je vous parle de Galtier en début de saison, j'avais fait un avis tranché pour dire que j'étais excité à l'idée de voir ce que ça allait donner Galtier au PSG. Oui, j'ai dit ça.
Pas droit d'être excité.
Et il y en a un sur ce plateau qui a dit Payet sera l'homme de la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille.
Simon, t'as vraiment dit ça?
Non,
vraiment dit ça.
Je suis vraiment innocent. Et quand Romain a dit ça, j'ai dit attends, mais moi j'ai dû raconter des sacrés trucs aussi. Hein.
Donc non, même lui n'est pas sûr. Il se dit je suis capable de le faire. Hein,
c'est peut-être. Vrai. Non, toi tu m'as mis le doute, mais
précision,
non, c'est pas
moi. Précision importante. J'ai pas dit que Christophe Galtier allait, mais je me suis dit c'est intéressant à voir, c'est intéressant à suivre. Et même là-dessus, en fait, je me suis manqué, faut le dire. C'est peu dire. Je suis très très déçu au final de ce qu'il fait, parce que j'ai pas vu du galette, même on va dire dans le mauvais et dans le je vais pas être tenu comme les autres. C'est ça, je trouve qu'il s'est totalement fait aspirer en fait par le système, et c'est mou, il se fait marcher dessus, il dit rien, enfin voilà, c'est j'ai honte pour lui quoi quand je le vois dire né, rien que ça j'ai honte pour lui. Et finalement je trouve que il fait pire que Pochettino. Il est juste dans de la gestion pour pas se faire virer. J'ai l'impression de voir Eric Borghini, vous savez, au moment de la Fédé là, qui fait tout pour je garde mon poste. Non mais Noël, il est sympa en fait. Voilà, j'ai l'impression que Christophe Galtier, à chaque prise de communication, il est là-dessus. Mais en fait, je dis ça, mais en même temps, je comprends. Parce que c'est malin de dire ça là sur le plateau de l'After. Bon, nous on a des primes à plus savoir qu'en foutre. Mais il faut penser en fait
surtout Nico.
Il faut penser en fait aux gens, voilà, parce que avoir un côté rebelle et puis dire vraiment ce qu'ils pensent et compagnie, c'est sympa, mais avoir une série de crédibilité auprès de Génération After, c'est bien, mais avoir derrière un gros chèque de départ, je pense que dans l'esprit de Galtier c'est mieux, et qu'à sa place, même nous, alors que bon, on n'a pas besoin de ça, même nous on ferait préparé que lui en fait. Et ça, c'est une stratégie qui s'explique, qui est je ne me mets pas à la faute vis-à-vis de mon employeur. Et si on regarde toutes les interventions,
toi, tu veux dire quoi, qu'il manque de courage, c'est ça?
Comment il pourrait se mettre à la faute, en fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il pourrait nous répondre, il pourrait nous appeler là au 32-16 et nous dire, il vaut combien votre courage par rapport à une année de contrat pleine au PSG?
Mais qu'est-ce que tu entends par courage? Tu veux qu'il fasse quoi?
Non, mais si on s'attend, là on est déçu de le voir se faire piétiner par Messi et compagnie d'une manière générale, et on pourrait se dire il pourrait au lieu de balancer sur des jeunes, il pourrait balancer sur Messi ou des trucs comme
ça. Je commence à comprendre pourquoi on a cité Antonio Conte intro.
Exactement, parce que Conte, lui, il défonce sa direction, mais stratégiquement, il y a quelque chose de fort dans ce que fait Conte, mais de bien connu dans le football, c'est dans ce cas-là, tu parles en premier. Si tu parles en premier, c'est toi qui initie le mouvement. Les autres ne feront que réagir. Donc, du coup, tu es un peu dans le mec, ouais, je gueule. Ouais, ça s'est mal passé, mais c'est moi qui ai raison. Parce que tu as parlé, dans ce cas précis, c'est parce que tu as parlé en premier. Et donc, du coup, Conte, il va avoir niveau indemnité, il va avoir peut-être moins que Christophe Galtier, mais on est au mois de mars et il est déjà placé.
Ok, j'ai compris ton avis.
Voilà. Bon. Et il est placé pour la valse qui arrive chaque année. Et cette année, quand même, il y a quand même deux trois clubs sympas qui vont chercher des coachs. Il y a le Real Madrid.
Oui,
il y a
sûr qu'ils vont se positionner sur Galtier.
L'Inter Milan, Tottenham, l'Atlético Séville. Alors,
il n'y en a aucun qui va se positionner sur Galtier.
Bah, c'est non. Moi, je trouverais pas ça délirant qu'ils viennent le chercher. Hein.
Non, mais Galtier, non. Oui, par contre, comptez tous les clubs que je t'ai cité, vont se et compter si il fait ça maintenant dans ce timing là avec Tottenham, c'est pas parce qu'il a peur de Christophe Galtier.
Non, mais c'est parce que c'est pas le même pedigree d'entraîneur
mais non,
aussi.
Mais exactement, mais pour ces clubs là, il y a des mecs qui sont déjà prêts, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Pochettino, De Zerbi aussi hein, qui l'air de pas y toucher mais quand même il est là, Carlo Ancelotti et puis le classique Mourinho qui même s'il demande rien, il y a toujours un Jérôme Rotten pour le tirer de quelque part.
T'inquiète,
et puis sur Zidane.
T'inquiète pas qu'il fait passer les messages.
Il sait comment faire lui.
T'inquiète pas qu'il fait passer les messages.
Donc voilà, le problème, c'est juste une question de timing. Et pour Galtier, il va avoir un timing totalement différent. Alors lui, c'est pas ses clubs de standing là, à part peut-être Séville, t'as raison.
Juste pour poursuivre un peu ton avis, est-ce que pour vous, c'est vraiment c'est clair et net que Galtier sera plus au PSG la saison prochaine?
Mais en fait, c'est, voilà, dans mon avis, j'ai envie de te dire, la seule chose qui a vraiment de tranché, c'est ça.
Il sera plus là.
Galtier, pour moi, c'est foutu. Mais Paris, c'est fini et j'ai envie de lui dire, voilà, c'est là, continue ce que tu as à faire. Je porte pas de jugement. Tu as un contrat, tu vas obtenir le gros chèque, un chèque du PSG comme ça, ça arrive qu'une fois dans ta vie, donc vas-y, prends-le. Regarde Laurent Blanc, mais par contre, regarde aussi, c'est-à-dire que Laurent Blanc, il l'a fait en 2016. Alors lui, c'était pas voulu, il s'y attendait absolument pas. Mais Laurent Blanc se fait dégager juin 2016.
Après, il a refusé des trucs aussi derrière.
Oui, c'est lui qui a décidé. Il a pris plus de 20 millions d'euros. Mais derrière, ça a mis 6 ans pour qu'il retrouve un truc sympa. Donc Galtier, je lui souhaite pas une traversée du désert de 6 ans. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il sera pas à plaindre de toute façon avec ce chèque-là. Il pourra partir en vacances pendant 6 ans un peu où il veut normalement.
Oui,
mais normalement, voilà. Après, je sais pas, peut-être
les prix ont augmenté.
Les prix des voyages augmentent et tout avec l'essence, le kérosène, c'est pas évident. Mais normalement, ça devrait aller. Par contre, travaille dès maintenant, cher Christophe, à ta succession, enfin à ta succession, à la suite de ta carrière, parce que c'est maintenant aussi que ça se joue. Donc fais-le en sous-marin. Reste.
Ça se trouve, il le fait, Romain. Tu sais pas?
Ben, je lui souhaite. Je lui souhaite.
Ça se trouve.
Parce que vraiment, lui au PSG, c'est fini et.
Attends, vas-y, arrêtons-nous là-dessus. Le PSG, moi, ça m'intéresse.
Ça t'intéresse.
Que... Non, alors, franchement, je vous le dis.
Je pense que c'est lié à Compos,
alors, Nico,
ou pas.
Non seulement c'est fini.
Oui, forcément.
Nico, c'est fini. Que c'est... Là, pour le coup, c'est tranché. Et par rapport à ce que disait Oussem tout à l'heure. Je te le dis, c'est fini. On va le parier. Mais, là où ça va être très, très compliqué, c'est que Oussem tout à l'heure se plaignait à juste titre de la com de Deschamps. Là, pour tous les supporters du PSG, attention les gars, vous allez revivre les trois derniers mois de Pochettino. De l'année dernière, où chaque conf, c'était vraiment, je me mets pas à la faute. Hop, essayez de me tremper, regardez bien, je me tourne. Et Galtier va faire ça là pendant 3 mois, ça va être très long à suivre.
C'est mieux que t'expliquer que il a été obligé de mettre les jeunes, que regarde tous les blessés
que
qu'il
Messi,
y a.
Que Messi, quand il voit un jeune a débarqué qu'il a pas vu depuis 2 ans, il se pose et qu'il le voit une semaine, il dit bon, pourquoi je jouerai avec lui? Non, mais ça, c'est ouf déjà. Je préfère qu'ils disent rien.
Toi, Simon, ça te paraît impossible, inconcevable, enfin impossible, allez, on va dire inconcevable qu'il puisse rester?
Moi, ça me paraît compliqué. Ouais, effectivement, si tu me demandais un pronostic, je pense qu'ils vont le sortir à la fin de saison et le remplacer. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez dit par rapport à Luis Campos.
Est-ce que c'est lié? Est-ce que leurs destins sont liés? Est-ce que l'un peut rester sans l'autre?
Moi, si je suis Luis Campos,
il y en a un qui peut rester sans l'autre.
Oui, je pense aussi. Luis Campos, à mon avis, il peut rester même si Galtier se fait sortir.
Oui.
Mais si Luis Campos, je vais même te dire autre chose. Dans la glace, moi,
je vais même te dire autre chose. Je pense que je me demande même si le fait, enfin, la possibilité pour qu'il reste,
c'est de virer,
c'est de devoir se délier. De Galtier même.
Oui. Mais vis-à-vis de son groupe, pas de supporters. On a vu des trucs à Monaco, bon, on va pas revenir dessus, et contre Lille, quand il coach quasiment à la place de Galtier et tout, moi je suis Galtier.
Est-ce qu'un coach accepterait ça, un nouveau coach?
En tout cas, moi je suis à la place de Galtier, je le colle au mur dans le vestiaire.
Non, parce que si t'es à la place de Galtier, tu lui dis merci d'être là.
Mais sauf que, non, mais juste pour faire une petite parenthèse, pour revenir sur ce que disait Romain. Galtier, il y a pareil, il y avait les débats. Galtier s'est fait pour Paris et tout. Moi, j'avais dit, c'est pas un gars qui a gagné, qui a une carrière de joueur, qui peut inspirer les mecs qu'il a dans le vestiaire. Et c'est pas un mec comme Klopp ou Mourinho qui n'a rien gagné comme joueur, mais qui te dit, regarde, moi, je connais le chemin, je les ai emmenés, j'ai gagné. Donc, a priori, il a rien à foutre au PSG. Et puis, ça gagne des matchs et tout. Et j'étais presque content de me dire, tu vois, finalement, en fait, tu connais pas le foot.
Ouais.
Un mec comme Luis Campos, lui, il connaît. Lui, il a eu les coronesses de prendre un Galtier au PSG. Bon, force est de constater que finalement, on n'avait pas tout à fait tort de douter de ça. Mais t'es Luis Campos, au bout d'un moment, si tu veux te regarder dans une glace, si Galtier se fait sortir, tu pars avec. C'est ton projet, c'est ton bébé, c'est ton...
On rappelle que Coronet, ça veut dire courage,
en italien.
Un gros courage. On va accueillir Farid, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Farid.
Bonsoir, messieurs.
Salut Farid. Alors Farid, je crois que t'as un avis très tranché sur Galtier.
Aïe. C'est même plus très tranché, c'est plus que ça, plus fin, tu peux pas, c'est haché même, hein. Je sais comment hacher. je suis plus au stade du tranché. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire déjà. Bon, Campos, il a une bonne part de responsabilité parce que c'est lui qui l'a mis.
Très bien. Et pas que ça comme responsabilité, il y en a d'autres.
Le deuxième point, c'est le recrutement. C'est une catastrophe, le recrutement. C'est un échec complet quand tu vois Esquité qui l'a pris. Les joueurs, c'est pas top ce qu'il a recruté, en tout cas par rapport à ce que ça coûte. Maintenant, pour en revenir à Galtier, moi je suis un vrai supporter du PSG. Et pour moi déjà à la base, c'était difficile de voir un supporter et entraîneur de l'Olympique de Marseille arriver chez nous. Et il est vrai que il a réussi là où tous les autres ont échoué, à savoir de perdre au Vélodrome en Coupe de France. Et puis effectivement, ce rapprochement. Non, mais député, c'est même pas le mot, parce que c'est ce que je disais la fois dernière. Je crois que même que, alors, autant ses compétences, j'ai plus de doutes concernant ses compétences. Maintenant, j'ai même des doutes sur son intégrité, par rapport à ce qui s'est passé.
Les gars, non, quand même, il a aucun intérêt. Laisse-moi
juste développer ce point-là.
Vas-y, développe, mais tu vas trop loin.
Je vais pas trop loin, à l'époque, l'affaire VAOM. Personne n'y croyait. Et maintenant, on est en train de...
Je refuse de m'associer à ça, Farid.
Non, mais attends, j'argumente.
Vas-y.
Laissez-moi argumenter.
Non, tu fantasmes, mais vas-y.
Je vais expliquer deux choses.
Vas-y.
C'est que la première, en ayant pas mal de famille du côté de Marseille, quand j'ai regardé le match, je lui ai dit, écoute, honnêtement, si t'as pas envie de gagner le match, tu sors qui? Tu nous sors Danilo, Verratti, dans ce match-là. C'est-à-dire, si tu as pas envie de le gagner, tu sors ça. Bon, bref, peu importe. Sur ce match-là, moi, j'avais des doutes. Et puis bon, effectivement, Né, Léo, à mon avis, toute sa famille, ils ont des maillots de Mbappé, des maillots de Neymar et des maillots parce qu'il est supporter de ces joueurs-là. Mais je peux comprendre aussi que il a l'OM quand même au fond de lui.
Sa famille
était quand même contente de voir l'OM passer en Coupe de France. Je me mets moi à sa place, ça serait mon père.
Mais Farid, tu crois vraiment que sa femme, ses gosses, ses parents, ils vont lui dire, hey, tu sais quoi, nous on est supporters de l'OM, t'es supporter du PSG, faut que tu perdes.
Il est pas content, ok, mais je veux dire, il a pas été malheureux de perdre sur
ce
match-là.
Le clubisme est un fléau.
Farid, trois premiers mots, Farid, mais le reste
je vais te demander.
Farid,
c'est pas pour t'attaquer. Je vais pas t'attaquer, mais je vais te demander de commenter deux choses. Et tu vas voir l'incohérence de ce que tu dis. La première,
c'est ma conviction. C'est une conviction incohérente.
Voilà, monsieur.
Tu peux, mais tu vas voir les limites du système. Farid, deux secondes.
Je vais t'en laisser. Farid,
J'écoute, je suis tout excité.
Eh ben, arrêtez-toi alors.
Tu peux pas écouter parler. C'est bon.
C'est alors, vrai que c'est dur.
Vas-y Farid.
Alors Farid, juste un truc. Dis pas. Vas-y Farid, il va repartir pour 5 minutes. Farid, juste. Là, tu l'as vu cette séquence de fin où tous les joueurs du PSG donnent le ballon à Messi dans le temps additionnel au Vélodrome
et qu'il la rend.
Et que il lui donne ça comme un dernier shoot en NBA et ils lui ont dit vas-y c'est à toi et qui redonne les ballons. Alors ça tu l'expliques comment? Est-ce que c'est Christophe Galtier qui a dit Léo
joue rien.
Fais-le comme un commentateur télé s'il te plaît.
Léo.
Il lui a dit Léo vas-y shoot pas. Comment tu peux expliquer que Lionel Messi sur la dernière minute alors qu'il reçoit 4 à 5 passes de ses coéquipiers pour lui dire fais la différence comme tu l'as fait à peu près 157 fois dans ta vie et le mec passe latéral c'est pour contenter son coach qui en fait est coach du PSG.
Les 157 fois c'était pas au PSG hein. C'était peut-être à Barcelone mais pas au PSG hein.
Oui,
et où il y a beaucoup de matchs que j'ai pas vu hein.
Mais du coup c'est le même homme, il est capable de faire ça qu'il est même pas tenté, je te dis pas qu'il réussisse.
Alors, je vais
mais qu'il
répondre.
Est même pas tenté
pas,
mais c'est pour faire
répondre.
Plaisir à Christophe Galtier parce qu'il est né à Marseille.
C'est pas possible. Bah oui, il peut plus aujourd'hui. La preuve, c'est que quand
non,
tu
mais
vois
il peut toujours tenter. Tu peux tenter même à 57 ans. C'est tenter. Là, il ne l'a même pas essayé.
Bon, allez, vamos, Farid. Merci d'avoir été avec nous.
Non, mais attendez, les gars.
Farid, il y a la pub, il y a des maillots.
Farid, il faut payer Nico.
Farid, en tout cas, c'est de la bonne.
Non, je vous fais la pub. Ouais. Voilà, avec Winamax, vous pouvez gagner. Non,
il est énorme.
Non, non.
T'es énorme, Farid, je te kiffe. Vas-y, le mot de la fin, Farid. On est grave à la bourre, pour de vrai, vraiment.
Bon, les gars, par contre, je vous confirme. C'est une grande pipe et on n'en veut plus. Voilà, ça vous va les gars?
Bah,
c'est une
grande pipe. C'est ton avis.
C'est le pire entraîneur qu'on ait eu. C'est le pire qu'on ait eu, je confirme.
Restons dans le respect, dans l'amour. Farid,
non mais c'est du respect, pipe. Non les gars, vous n'êtes pas gentils.
Bah, ça
c'est
dépend
mignon.
Mais oui.
C'est mignon. Il y a pépite et il y a pipe. C'est pas grave les
d'accord.
gars.
Oui. On t'embrasse. Moi aussi Farid, à très bien. Merci beaucoup.
Merci Farid.
Continuez à dire des bêtises les gars.
C'est notre titille, bien sûr.
On est
titille, le ballon d'or de la connerie. Tiens Farid, merci d'avoir été avec nous. Voilà, le football n'est qu'amour, comme vous l'entendez. Avec Simon Dutin. Voilà, on vient dans un instant. On sera avec Paulo Breitner. On va évoquer la retraite de Mesut Özil.
On sera avec qui, Nico?
Paulo Breitner.
Exio.
Ah ouais, il sera avec nous dans un instant.
On embrasse Paulo, en plus, je kiffe son site.
On kiffe tout chez Paulo. Ton slip aussi.
Non, son site, c'est ça.
Bolyland, allez, ce qu'il fait. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Sam Le Saïef, Romain Canouti, Simon Dutin. On est toujours en direct sur la chaîne RMC Sport sur Twitch. Et on est avec Anthony Reich également, qui est au Parc des Princes. Paris Saint-Germain-Wolfsbourg, quart de finale, aller de Ligue des Champions féminine. Anthony, on approche de la pause. Non, on est plus. On a combien là?
Si,
on
approche de la pause. 38e au stade et 36e dans le studio.
Voilà, à peu près. Ouais.
38e minute de jeu 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg. Une belle première période, hein, de très belles factures, digne d'un quart de finale de Champions League avec beaucoup d'intensité et de combat. Et pour l'instant, les Parisiennes qui se procurent les meilleures situations avec deux grosses occasions à la demi-heure de jeu. Une frappe du gauche de Ramona Bachmann, bien arrêtée par la gardienne. Et ensuite, une tête non cadrée de Kadia Toudiani qui était toute seule, un peu oubliée, deuxième poteau. En tout cas, toujours 0-0 entre le PSG et Wolfsburg. Il reste 7 grosses minutes de jeu dans le temps réglementaire dans cette première période.
Merci Anto. Tiens, ça vient de tomber. Info de notre Fabrice Hawkins, compo probable de l'équipe de France pour le match de vendredi face aux Pays-Bas.
Ouais, c'est notre collègue suiveur de l'équipe de France qui nous envoie une composition de Didier Deschamps, la nouvelle ère. Avec du 4-3-3 classique, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Coupe du Monde, sauf qu'on essaie de changer une nouveauté. Je vous la fais, l'équipe Maignan dans les cages. 4 défenseurs de droite à gauche, Koundé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez, qui avait une gastro et finalement qui devrait jouer. Au milieu de terrain, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot. On sait lequel des trois sera la sentinelle, ça sera sûrement Tchouaméni. Et Coman, Colomouani, Mbappé. Et bien évidemment, le capitaine sera Kylian Mbappé.
Et on accueille notre drôle de dame allemande, Paulo Breitner, qui est avec nous. Salut mon Paulo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Il va bien mon Paulo?
Bah ça va, ouais.
Ouais, tout va bien. Alors si t'es là Paulo, c'est parce qu'un international allemand, un champion du monde, a annoncé la fin de sa carrière. Mesut Özil, 34 ans, a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il explique qu'après 17 ans de carrière comme footballeur, il y mettait un terme, freiné par de nombreuses blessures, précise-t-il. Tiens, juste avant de se lancer dans le vif du débat, j'aimerais que chacun vautour vous me décriviez, enfin vous me disiez l'adjectif, le qualificatif qui vous vient en tête quand on dit Mesut Özil. Simon, tu dis quoi?
Soyeux.
Ouais, c'est pas mal. Je suis dans la même lancée, élégant.
Ouais. Comment ? Bien sûr, c'est la classe. Moi, je suis un supporter d'Arsenal.
Tu as demandé un adjectif.
Voilà. Arsenal, pendant ouais, des années.
Arsenal, le
non, mais c'est pas Arsenal. C'est, pour moi, c'est la saison même d'un. Mais champion du monde, tiens. Parce que ouais, pour moi, il est prépondérant oui, dans oui, cette dans ce titre, malgré le fait que c'était un peu un ovni sur ce système-là dans cette coupe, dans ce 11 de départ, et tu avais l'impression qu'il était à ce poste sur le côté par défaut.
Et, ma femme est prof de français, si tu veux des adjectifs, elle peut t'en envoyer parce que là,
c'est pas non,
t'as demandé un adjectif, frérot. Tu...
Champion du monde.
Champion du monde. Champion du monde. C'est pas un adjectif.
Avec l'accent noir, je peux te le faire.
Polo, toi, si tu devais décrire le mec vite fait en un mot aussi, tu dirais quoi ?
Minimaliste.
Ah ouais.
Ah,
ça on sent l'exigence. Fait,
c'est
l'exigence.
La plus belle définition que j'ai vue de. C'était le Elfrun 2, ça remonte à quelques années maintenant. Alors, il faut savoir, je fais ça rapidement. 2006. Il y a Zidane, d'accord, la Coupe du Monde, fabuleuse. Et en Allemagne, il y a un jeune gamin, quoi, qui commence à Gelsenkirchen, à Schalke, qui s'appelle Mesut Özil, tu vois. Il y a des années comme ça où tu te dis le football est merveilleux. Et puis après, tu vois sa carrière et tu vois le Elfrun 2 qui fait une analyse extraordinaire du jeu d'Özil. C'est-à-dire que Zidane pouvait tout casser pendant une saison, voire plusieurs saisons à la suite. Et Mesut Özil, on va rester sur notre fin, finalement. Ouais. Alors qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez lui. Le Elfrun 2 avait cité le titre, c'était l'art minimaliste. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il pouvait disparaître et puis d'un seul coup refaire des choses merveilleuses, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi si controversé en Allemagne.
Comment tu l'expliques ça, Polo, toi ? Excuse-moi, Simon, comment tu l'expliques, toi, ça, Polo, ce côté minimaliste, c'est des choix de carrière, c'est quoi ?
Non, pas les choses de carrière, parce qu'en fait, tu.
Il joue dans des gros clubs.
Non, mais peut-être qu'il aurait peut-être pas dû aller au Real, tu vois, par exemple.
Moi, justement, avant de laisser la parole à Polo, c'est, je pense, qui symbolise le point d'interrogation qu'il y aura toujours autour de la carrière de ce mec, c'est que. Tu l'associes à quel club ? Toi, Polo, tu vas l'associer quoi ? À Schalke ? Parce que c'est
non,
là d'où il sort.
Mais le Werder, c'est extraordinaire.
Au Werder, mais je veux dire, pour le grand public, tu vois, tu sais c'est pas si c'est le Real. Il fait 8 ans à Arsenal. Mais
Simon, t'es fou, quoi. Le Real, 2012, ils sont champions devant le Barça de Guardiola.
Tu fais 8000 passes décisives.
Cette année-là, il est monstrueux. Avec Mourinho, il est monstrueux.
Ouais, mais il a pas marqué, tu vois, une période d'un club comme il aurait pu.
C'est peut-être parce que toi, t'étais trop focus sur le côté, c'est la défaite de Guardiola qui gagnait tout, mais cette année-là, il est monstrueux.
Il y a une belle équipe.
Juste Polo pour en revenir quand même à cette
l'apologie
annonce,
hein. Du foot vertical.
Ouais, je t'en prie. Sur cette annonce, l'annonce de sa retraite finalement à 34 ans, quel a été l'impact de cette nouvelle en Allemagne ?
Alors, ça a mis longtemps avant de démarrer dans les médias allemands, parce qu'en fait, Mesut Özil est quasiment oublié depuis les polémiques
en Turquie,
qu'il y a eu en Turquie notamment. Et là, ça commence à arriver. Je pense qu'il y a eu quelques conférences de rédaction en train de se dire qu'est-ce qu'on dit sur Mesut Özil pour pas blesser personne, etc. Et je trouve que le Kicker est assez extraordinaire sur ce qu'ils font, parce qu'ils posent la vraie question. Ils disent tout simplement, ça vient de sortir il y a quelques minutes, là, que Mesut Özil était un joueur de classe mondiale, champion du monde, et pourtant, il a toujours été controversé. C'est un Allemand qui ne jouait pas comme un Allemand. Donc en fait, vous voyez dans cette phrase-là tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire le génie latin, le génie de la Turquie, le génie tout ce que tu veux, mais en même temps, il n'est pas complètement allemand. Donc les polémiques qu'il y a eu depuis quelques années, et etc. Puis pourtant, il a une valorisation, une valeur qui était extraordinaire, et il lui rend un hommage extraordinaire. Mais dans les petites phrases, tu as toutes les polémiques actuelles sur c'est qui Mesut Özil, c'est quoi un Turc en Allemagne, un Allemand d'origine turque en Allemagne, et toutes ces choses-là qui sont passées évidemment avec la photo avec le président Erdogan.
Alors on rappelle quand même, parce que Özil, il est champion du monde certes, il compte 92 sélections avec l'Allemagne, et alors à l'été 2018, il annonce ne plus vouloir porter le maillot de l'Allemagne, il déclare alors être la cible d'attaques racistes liées à ses origines turques, alors ce qui d'ailleurs à l'époque, Polo, crée une immense polémique en Allemagne. Je me souviens de Manuel Neuer qui était l'un des leaders du vestiaire, qui a complètement contredit Mesut Özil.
Ouais, alors oui, c'est ça, c'est qu'en fait le problème, si tu veux, c'est que très clairement et très rapidement, il va être orchestré politiquement par la gauche en Allemagne, et il va être la cible évidemment de certaines de l'extrême droite allemande, évidemment, parce que on sait très bien ce que représente le maillot en Allemagne. L'histoire de la fédération allemande, par exemple, est très très à droite, et on avait à l'époque un président de la fédération, Grindel, qui avait fait des déclarations en 2013 comme quoi il n'était pas trop d'accord sur la double nationalité, qu'il était capable évidemment d'accepter quelqu'un, mais il fallait jouer pour la nation allemande, mais il fallait abandonner son autre nationalité, etc. C'était très mal perçu à l'époque par la gauche, qui avait accusé Grindel en fait d'être un suppôt de l'extrême droite, alors qu'il appartenait au CDU, etc. Donc tout ça était il a été victime d'attaques racistes, c'est une évidence, mais comme je disais toujours, c'était quelqu'un qui était adulé en Allemagne, et quand on est adulé, on est aussi détesté, et donc c'est toujours cette question. Mais moi, ce que je reproche beaucoup à la presse allemande de l'époque, c'est tout de suite d'avoir mis en opposition position Toni Kroos et Mesut Özil, en gros un blanc et un allemand d'origine étrangère, alors que Toni Kroos vient de l'ex-Allemagne de l'Est. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Allemagne, je peux vous assurer que la réunification s'est pas passée comme ça du jour au lendemain. Oui. Et qu'en gros, quand on débarquait de l'Allemagne de l'Est en équipe nationale, on était aussi considéré quelque part comme un étranger. Et en plus, il venait de la partie la plus septentrionale de l'Allemagne. Je peux vous assurer que c'est pas riche là-bas. Donc c'est des choses comme ça qui se sont passées. Mesut Özil, en fait, a toujours été critiqué par son style de jeu, qu'on trouvait extraordinaire d'un côté, mais qui n'était pas allemand dans le style non plus. Et donc ça a été en fait un vecteur, il a été un messager de l'intégration qui a été faite en Allemagne. Et en fait, le problème de cette photo et de lorsqu'il a décidé de partir de l'équipe nationale en 2018, je peux vous assurer, à l'époque, j'étais en contact avec des personnes qui sont plus à la fédération aujourd'hui. On m'a fait comprendre que les murs avaient tremblé tellement ils étaient en colère de ce qu'avait déclaré Mesut Özil, parce que tout le travail sur l'intégration des Allemands d'origine étrangère, si tu veux, a été quasiment un néant et détruit. Maintenant, encore une fois, quand on connaît la fédération allemande, c'est pas le Parti socialiste allemand. Non, mais il faut bien comprendre tout ça.
Oui, il y a un contexte.
Il y a beaucoup de choses, oui.
On va poursuivre le débat dans quelques instants. On va marquer une petite pause. On va poursuivre justement sur cette dimension politique autour de Mesut Özil avec toi, mon Polo. Toujours passionnant, Polo.
Toujours.
Notamment sur ces questions-là. Petit détour par le Parc des Princes, Anthony Reich. C'est quasiment la mi-temps entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg, quart de finale, aller de Ligue des Champions féminine.
Oui, effectivement, on entre dans le temps additionnel de cette première période. Toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Wolfsburg. Les occasions sont du côté parisien, mais pour l'instant, les joueuses de Gérard Prêcheur n'arrivent pas à trouver la faille dans cette solide défense de Wolfsburg.
Allez,
0-0.
On poursuit notre débat et toutes ces explications de Polo sur Mesut Özil qui a annoncé l'arrêt de sa carrière aujourd'hui, avec Simon Dutin, avec Oussem Le Saïef, avec Romain Canouti et avec Polo. Donc à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Avec Romain Canouti, Oussem Loussaïev, Simon Dutin, Polo Breitner est toujours avec nous puisqu'on évoque l'annonce de la retraite, de la fin de carrière de joueur professionnel de Mesut Özil. Alors Polo, on revenait sur cette fameuse déclaration de Mesut Özil à l'été 2018 quand il annonce arrêter avec la sélection. Alors il y a quand même constamment eu une dimension politique autour de Mesut Özil avec sa relation avec la sélection allemande. On se souvient de l'ex-chancelière Angela Merkel qui l'a souvent soutenu, voire peut-être parfois même instrumentalisé. Il y avait eu cette fameuse photo en 2010 où il serre la main de Merkel qui avait été érigée en symbole d'une Allemagne multiculturelle à cette époque-là.
Mais alors tout le problème, en fait, c'est la question de que sont les joueurs de football, qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, lorsqu'ils sont récupérés politiquement et qu'ils vivent le Zeitgeist, l'esprit du temps, qui est là. Le problème de Mesut Özil, en fait, c'est qu'il c'est devenu très rapidement, en fait, par rapport à la photo qu'il a prise avec le président Erdogan.
Et je en 2018, oui.
Il y avait aussi Ilkay Gundogan qui était là. D'ailleurs, je pense que Ilkay Gundogan, où j'ai eu des échos comme lui, qu'on considère que c'est quelqu'un de très très intelligent en Allemagne et qu'on n'a pas compris cette photo où lui avait son maillot avec à mon président. Alors là, ça a été la coupe qui a fait déborder le vase en Allemagne, à tel point qu'on a aussi pensé se séparer de ces deux joueurs avant la Coupe du Monde 2018. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que au-delà des deux joueurs, tu avais deux Allemagnes qui s'affrontaient. Donc il y avait une Allemagne multiculti, le fameux multiculturalisme qui a été le grand gagnant de 2014, évidemment. Sauf que ce multiculti, il a complètement explosé avec l'échec en Russie en 2018, puisqu'on a appris par la suite que les joueurs n'ont pas s'insulté, parce qu'ils disaient que c'était pour s'amuser, mais qu'en gros, il y avait ce qu'on appelait les Kanaken d'un côté, c'est-à-dire les joueurs d'origine étrangère, et le mot Kanak, en fait, en allemand, n'a rien à voir avec les origines de Christian Carambeu. C'est une insulte qui date depuis à peu près 2 siècles, et qui disait que c'est tous les étrangers qui viennent des provinces les plus profondes de Russie, etc. Donc, c'est comme ça que les blancs, on va dire, de la sélection nationale parlaient des étrangers, des Allemands d'origine étrangère, je vais y arriver, et de l'autre côté, les Allemands d'origine étrangère disaient que les Allemands blancs étaient, ou souches, étaient des kartoffels, des pommes de terre. Donc si vous voulez, ça a explosé en 2018, donc si vous voulez, le mythe du multiculturalisme victorieux en 2014 a complètement explosé à ce niveau-là, et l'affaire Özil, parce que ça s'appelle comme ça en Allemagne, est devenue très clairement d'un côté Özil victime de racisme allemand et notamment de l'extrême droite allemande, mais qui s'oppose à un nationalisme turc qu'en Allemagne on n'avait pas spécialement vu. Et ça, c'est très très clair. Et le positionnement d'Özil est quand même très très spécial à ce niveau-là, parce que lui, il dit, moi, je suis un joueur de football, je suis pas un politique. Mais alors, pourquoi tu le répètes systématiquement, ce genre de choses? Et si on veut pas prendre pour ces personnes si on veut les prendre pour des personnes intelligentes, il y a quand même des choix politiques à faire qui me semblent importants. Je vais pas me balader, moi, avec quelqu'un que j'ai pas envie de voir. Ça peut être un politique, mais, etc.
Polo, justement, on peut rappeler à certains auditeurs qui peut-être le savent pas, la diaspora turque, elle est très 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 volumineuse en Allemagne. Et lui, il était un symbole, justement, il aurait pu être un symbole, justement, du bien vivre ensemble, et effectivement aider à mettre fin à beaucoup de polémiques et à faire taire certains politiciens d'extrême droite. Il n'est pas non plus interdit de penser qu'au moment où il a été un petit peu déstabilisé, notamment critiqué pour ses performances, du côté de Erdogan et du pouvoir turc, on y ait vu une façon de s'infiltrer, d'aller mettre des mines, tu vois, dans le paysage socioculturel allemand, et que lui se soit fait, bon, tout joueur de foot qu'il est, un peu retourner le cerveau en mode, tu vois, ils t'ont jamais accepté.
Mais c'est dingue, c'est que quand on écoute ce que dit Polo, c'est que finalement il y a une instrumentalisation des deux côtés.
C'est évident, j'en suis convaincu.
Ouais, il y a même un troisième aspect qu'il faut pas oublier, c'est que si t'as envie de faire des affaires en Turquie, t'as plutôt intérêt de serrer les pinces d'Erdogan. Et ça, mais c'est aussi important, ouais. Parce que si t'as envie de construire des projets immobiliers en Turquie en ce moment, vaut mieux être proche d'Erdogan qu'autre chose. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est comment a réagi la presse allemande, parce que y compris la presse de gauche, il dit mais que t'aies envie de faire plaisir à ta mère qui est turque et en disant le rejeton et photographie avec Erdogan, très bien, mais t'as le droit aussi d'avoir une conscience politique et savoir ce qui se passe en Turquie. Et c'est par exemple la Süddeutsche qui a dit ça, qui est d'une façon très bien. Et la Süddeutsche, c'est un journal de centre gauche, donc c'est pas les médias conservateurs allemands bien connus comme bien. Alors évidemment, Bild, populaire et populiste, attaque en première ligne, parce qu'on sait jamais, eux, entre la droite et l'extrême droite, c'est où ils en sont à ce niveau-là. Mais c'est des choses vraiment importantes, c'est que ça a vraiment touché beaucoup la société allemande, parce qu'on savait trop, et ils ont parlé quand même que arrête de te victimiser aussi, qui est un discours très classique. Et évidemment, certains médias répondaient à ça, oui, mais c'est toujours ceux qui sont pas victimes qui se disent que les autres sont des victimes. Tu veux dire, il y avait donc, c'est plutôt la fraction du pays qui est présente par rapport au cas Özil. Maintenant, est-ce qu'il a tout fait pour que ça s'arrange beaucoup? Je rappelle quand même qu'il a fait une longue déclaration où il partait de la sélection allemande, où il a même pas appelé le sélectionneur Joachim Löw, qu'il a défendu mordicus, quelles que soient les périodes de sa vie sportive. Donc il y a quand même des choses qui sont très spéciales. Donc voilà, moi je rappelle aussi qu'à Arsenal, quand Nacho Monreal dit qu'il s'entendait avec personne, je veux dire, ça a rien à voir avec la politique allemande ou les relations allemano-turques.
Ouais, faut pas trop en attendre de lui. Hein. C'est un gentil footballeur dans sa bulle là, et faut pas le prendre pour plus intelligent que ce qu'il n'est.
Mon Polo, merci d'avoir été avec nous. Merci pour cet éclairage, Polo. Voilà, après donc l'annonce de la fin de carrière de Mesut Özil. À bientôt, mon Polo.
Ciao.
Salut, Polo. Les gars, merci. Merci Simon Dutin. Merci Oussem Loussaïef. Merci Romain Canouti. Voilà, vous restez branchés. Hein, vous restez avec nous. Vous restez sur la chaîne RMC Sport, la chaîne Twitch RMC Sport. Vous êtes de plus en plus nombreux, bien entendu, à réagir. L'after se poursuit dans un instant avec Omalet, Nico Jamin qui arrive dans un instant, avec Thibault Leplat, avec Daniel Riolo. À tout de suite au 32-16.
Génération After.